Génération Soccer.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, ce sera à 18h, donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition de la Multisport avec moi aujourd'hui. Il y aura toute une équipe de chroniqueurs. On va parler ensemble de l'actualité sportive. Donc il y aura du tennis, il y aura de l'automobilisme, il y aura du cyclisme, il y aura aussi du rugby. Alors je dis bonjour à tous ceux qui sont là, présents avec moi. Je crois qu'il y a un nouveau dans l'équipe, il s'appelle Rakesh. Bonjour Rakesh.
Salut à tous.
Eh bien, salut à toi. On commence par la partie automobilisme, puisque tu es un passionné d'automobilisme, comme beaucoup d'auditeurs, je n'en doute pas, avec la course aujourd'hui, le dernier Grand Prix de la saison, un Grand Prix nouveau, puisqu'il il a la particularité de commencer entre guillemets de plein jour et de se terminer à l'aube de la nuit. Et le premier Grand Prix qui a souri à l'Allemand Sébastien Vettel. Les McLaren n'ont pas été en verve durant la course, il faut bien l'avouer, avec beaucoup de malchance pour Heikki Kovalainen hier, beaucoup de malchance pour Lewis Hamilton aujourd'hui. Le fait, puisque les titres étaient déjà joués, le fait important, c'est évidemment que Ferrari n'a pas profité du faux pas des McLaren, puisque Kimi Raikkonen n'a pas terminé dans le top 8, il a même terminé derrière Heikki Kovalainen. Je pense que tu as peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ton impression, par rapport à la course d'aujourd'hui. Une course pas trop passionnante, même si à la fin, il y a eu quand même une très belle lutte pour la deuxième place entre Weber et Button, non?
Tout à fait. Il faut d'abord dire que c'était une course pour le fun, parce que comme tu l'as dit précédemment, le titre de champion a été joué, donc tout le monde était là, présent sur le circuit, à découvrir un peu ce qui se passait à gauche à droite par rapport au beau bâtiment, avec ses 25 milliards de dollars investis sur le circuit. Et donc ils étaient plus là pour faire de la figuration que plutôt une course, enfin certains, mais ils étaient là sans pression sur ses épaules et tout. On a pu le voir comme par exemple avec Kamui Kobayashi qui a fait un dépassement extraordinaire sur le nouveau champion du monde, Jenson Button, et c'était très très énorme, donc c'était sans pression.
Ouais, le fait aussi important de la course, c'est la bataille perdue par le Brésilien Rubens Barrichello, qui ne finira pas second, qui ne finira pas vice-champion du monde, puisqu'il a perdu sa bataille pour la deuxième place du championnat pilote, au profit donc de l'Allemand Sébastien Vettel, qui fait donc coup double. Et pour Brown Grand Prix, la fête n'est pas totale, même si c'est déjà très inespéré ce qu'ils ont eu tout à l'heure. Malgré tout, pour Barrichello, ça doit quand même être difficile, parce que c'était, je vais dire, enfin, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on a quand même l'impression que c'était l'année ou jamais pour Barrichello, surtout en plus avec l'âge qu'il a et en dépit de l'expérience qu'il a accumulée au fil de toutes ses saisons.
Je veux pas être langue de bois, mais j'ai l'impression que Barrichello, cette année, il n'a pas eu le soutien à 100% que Ross Brawn a accordé à Jenson Button. C'est-à-dire qu'il y a certaines courses, je peux pas m'en souvenir, mais certaines courses où il y avait moyen de faire un bon résultat, et comme par hasard, sa voiture ne fonctionnait pas à merveille, ou la stratégie n'était pas bonne, n'était pas vraiment bonne, donc j'ai l'impression que c'était... sans faire de langue de bois, j'ai plus l'impression que c'est plutôt Ross Brawn qui a plus puni son pilote que Barrichello qui n'a pas saisi son occasion.
Ouais, mais il a pas eu beaucoup de chance non plus tout au long de la saison. Enfin c'est vrai que effectivement, mais à un moment donné peut-être que c'est tu sais, en plus Ross Brawn on le connaît chez Ferrari, mais c'est vrai qu'il était en plus très décrié chez Ferrari parce que à un moment donné. Tu connais les courses automobiles, il faut toujours choisir un numéro 1, surtout en Formule 1, ça se fait malheureusement trop souvent, et peut-être qu'on peut effectivement lui reprocher d'avoir choisi trop tôt le numéro 1, et d'avoir choisi, je dirais, le plus présentable, le plus jeune, le plus peut-être populaire, Jenson Button, quoique Barrichello est très populaire aussi, de par sa sympathie, mais effectivement, on peut regretter le fait qu'effectivement, Barrichello n'a peut-être pas été dans les meilleures dispositions par son écurie. Brawn, Grand Prix. Alors, bonjour Fabien, tu es avec nous. Tu avais une réaction peut-être par rapport à Rubens Barrichello.
Ouais, bah déjà, bonjour à tous. Ouais, j'avais une petite réaction par rapport à Rubens Barrichello. Bah moi, je pense que tout simplement, Barrichello, il pâtit un peu de son image d'éternel numéro 2 dans une équipe. Et que bah, c'est peut-être pour ça que Ross Brawn il a quand même fait sûrement plus confiance à Jenson Button. En plus, comme tu l'as dit, Chris, bah voilà, Button il a plus la gueule d'un numéro 1. Enfin, il va être, on va dire, plus médiatique. Et puis en plus, il est quand même, on va dire, son potentiel. On en a fait des tonnes depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Et les premières performances lui ont donné raison à Jenson Button. Donc, voilà, quoi. Un petit peu dommage pour Barrichello, mais pour moi, Barrichello, ça restera toujours le numéro 2 par excellence. Et juste un petit mot sur Vettel qui finit donc deuxième du championnat. Bah, c'est peut-être un signe, hein. En tout cas, c'est le signe de la relève, en tout cas, du sport mécanique et la Formule 1. Et je pense que, bah, Vettel, il aura, véritablement son mot à dire plus que cette saison encore, la saison prochaine.
Oui, on le compare, volontiers à Michael Schumacher. La comparaison est osée, mais Schumacher disait il y a quelques années, je me souviens, il disait que c'était peut-être celui qui le succédera dans le cœur des Allemands. Moi, que quelque chose à dire par rapport à Vettel, on peut dire que Nick Heidfeld a apporté la cinquième place à BMW. Au sixième rang, on retrouve le japonais Kami Kobayashi. Je n'y arriverai jamais. Kobayashi, voilà. Il a créé la surprise.
Kamui Kobayashi.
Voilà, excuse-moi pour la prononciation. La prononciation asiatique ne me connaît guère, ne me réussit guère. Je ferai des efforts pour les prochaines émissions. Il a battu, c'est une petite surprise parce qu'il confirme quand même son potentiel. Il a battu Arnaud Trulli, il l'a dépassé. Très belle place aussi de Sébastien Buemi au volant de sa Toro Rosso qui complète la zone des points. Enfin, anonyme par contre, pour les champions du monde Kimi Raikkonen chez Ferrari 12e, Fernando Alonso chez Renault 14e. On sait qu'ils ne resteront pas la saison prochaine dans la même équipe. Pas de miracle non plus malheureusement pour le français Romain Grosjean 16e après un parcours honorable par rapport à son équipier sur les deux premiers tiers du Grand Prix. Peut-être une petite réaction par rapport à la course d'aujourd'hui une impression sur Romain Grosjean qui montre de belles choses mais qui manque encore un petit peu de constance et dont la voiture ne l'aide vraiment pas à faire de très bonnes performances pour le moment.
Bah, il faut dire que tout simplement Alonso a décrié a défendu son ami et coéquipier Romain Grosjean en disant que tout simplement si Grosjean avait la voiture de Kamui Kobayashi pour se battre pour les mêmes places que Kamui justement, mais la chose à savoir c'est que Alonso a par lui déclaré que la Renault qui conduisait était la plus mauvaise de tout le plateau. Donc un gros choc pour ce pilote qui quitte le plateau justement, qui quitte l'équipe avec dans l'ombre justement.
Ouais, c'est triste hein, pour Fernando Alonso, mais on a senti un peu d'émotion quand même parce qu'il l'a dit avant le Grand Prix, il a dit qu'il était très ému. C'est une page qui se tourne, je crois qu'il a fait plus de ou pas loin de 100 Grands Prix, je ne sais plus le chiffre exact pour Renault, mais c'est quand même une page de sa vie qui se tourne tout simplement. En tout cas, c'était un Grand Prix. J'ai envie de dire un peu pas c'est pas vraiment vrai, mais un peu à l'image de la saison, un peu en dents de scie quand même. Je trouve qu'il n'était pas pour une première, on aurait pu s'attendre un peu plus de peps, mais c'est vrai qu'aussi l'abandon d'Hamilton, encore une fois, Hamilton qui est trahi, et encore une fois, les Mercedes qui sont trahis par les freins, y a peut-être joué pour quelque chose. Donc en tout cas, c'était une saison vraiment agitée, je pense que ça, on peut le dire, si on fait un flashback il y a un an, je pense que personne n'aurait pu imaginer à seul instant le classement du championnat du monde actuel. Si toi, tu n'avais qu'une seule image à retenir de cette saison, ce serait quoi, cette saison 2009 un peu particulière? Ce serait quelle image qui sortirait au-dessus du lot?
Bah, il y a plusieurs images qu'on peut retenir, qu'on peut regarder, l'image d'un résumé, mais c'est seulement aussi qui s'est détaché de sale image négative. On peut commencer par le mensonge d'Hamilton au Grand Prix d'Australie. Il y a aussi le procès du double diffuseur. C'est pas moi. Moi, j'ai la bonne voiture. La signature de la FOTA la FOTA, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Formula One Team Association, dire l'association des constructeurs d'équipes, enfin des équipes, pour l'accord Concorde qui veulent pas être dans le calendrier pour la saison suivante. Ouais, ouais. À cause du budget. Ensuite, il y a les déclarations trash de Bernie Ecclestone. Puis il y a aussi ce que tout le monde a attendu, le crash gate à Singapour l'année dernière. Mais
pathétique, bon, hein, qui a coûté la tête de Briatore.
Briatore, oui, mais pour moi, c'est pas le plus pathétique. Je trouve le plus pathétique, c'est un gars qui est comme Bernie Ecclestone, qui est encore en tête, qui est vieux, qui sait pas quoi dire, qui sait plus quoi faire de son argent et qui délocalise tous les grands prix d'Europe pour mettre dans les pays exotiques. Bon, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, la chose que je peux dire, le seul point positif, l'image que je peux voir, que je retiendrai cette année, c'est seulement Ross Brawn qui soulève son trophée, enfin qui jubile. Il y a deux semaines au Brésil de remporter un titre de constructeur, car rappelons-nous, il faut dire aussi que en début de saison, il n'était pas sûr d'être présent sur le plateau à deux semaines du championnat, il n'était pas sûr d'être présent. Il a fallu de remercier Honda de l'avoir cédé l'équipe à 1 euro symbolique. Je dis bien 1 euro symbolique et pas à n'importe qui pour que cette équipe soit assurée sur le plateau.
Oui. Parce que et en plus, excuse-moi.
Vas-y.
Et en plus de ça, il faut aussi dire que effectivement, tu l'as dit pour l'euro symbolique, il a récupéré cette écurie. En plus, il y a eu des divisions internes, notamment avec Mercedes. Je crois que j'ai entendu ça. Et donc, il tiraille un peu. Surtout que Mercedes en peste un petit peu quelque part d'avoir cédé l'écurie à Brawn. Surtout quand on voit les résultats. Ce qui m'avait marqué, je ne sais pas si tu te souviens, avant le début de la saison, c'est justement les résultats, quoi. Il commence dans son écurie. Il faut aussi rappeler d'abord que la formule que la FIA avait décidé de changer complètement les règles. Donc c'était quelque part sur une feuille blanche, je crois que beaucoup avaient utilisé cette expression-là. Et donc c'était quelque part une nouvelle formule, une formule new look, ce qui a complètement redistribué les cartes. Et je ne sais pas si tu te souviens, avant le début de la saison, les premiers essais, parce que il y en a plus beaucoup aussi avec la nouvelle règle de la FIA qui interdit beaucoup d'essais privés, même quasiment la totalité. Et avant le début de la saison, c'était assez improbable. On se disait, les Brawn GP, est-ce qu'elles vont tenir le coup? Et moi, l'image que j'ai envie de retenir, c'est ce premier Grand Prix d'Australie qui nous a tous mis, quelque part, un peu une gifle dans le visage. Et de voir les Brawn GP qui dominaient comme ça, et les grosses écuries telles que McLaren, Mercedes et Ferrari, qui étaient complètement à la traîne. Ça, c'était vraiment une image complètement étonnante. Alors, le champion de cette année, c'est un champion assez étonnant quand même, Jenson Button. On peut peut-être retracer, c'est un champion très contesté, aussi. On peut peut-être retracer celui qui, à 28 ans, a eu ce qu'on peut appeler une carrière improbable. On dit toujours qu'il n'a jamais été dans la bonne écurie au bon moment. C'est un peu, je vais pas dire une légende, mais c'est ce qu'on dit souvent. C'était un pilote qui avait un talent fou, mais qui l'a pas toujours bien exploité. Alors, je vous propose de faire un petit flashback très rapide, sur sa première année en Formule 1, s'il vient en 2000 chez Williams. Il est derrière Ralf Schumacher, donc il est le premier pilote. Il se débrouille plutôt pas trop mal, il faut bien le dire. Mais il ne récolte que 6 points à 20 ans, mais ce sont des débuts assez prometteurs dans une écurie qui est en plus assez modeste. Il est malgré tout évincé au profit de Juan Pablo Montoya. Les années suivantes, c'est un petit peu la stagnation. Hein. Il va chez Benetton, chez Renault, ça se passe pas trop bien. Il est surclassé par Fisichella la première année chez Benetton. Chez Renault, il est brillant, il finit bien. C'est un bon finisseur, on lui reconnaît ses qualités-là. Mais il manque vraiment de constance. Et il est remplacé par Fernando Alonso. Peut-être par rapport aux premières années de Jenson Button, tu as quelque chose à préciser?
Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que Button, il commençait quand l'équipe Renault commençait à vraiment être dans le bon tempo, dans le bon succès. Malheureusement, il y a un gars qui s'appelait, qu'on connaît tous, qui s'appelle Flavio Briatore, qui a déjà eu l'idée de mettre Fernando Alonso à la place de Jenson Button, et c'est malheureusement le coup de poignard qui a entaché la suite Oula, j'entends des échos.
Non, mais continue, là. Ça va être vite résolu. Oui.
Donc voilà, des coups de poignard sur la carrière de Jenson Button, en préférant son poulain de Fernando Alonso que plutôt laisser continuer sur le continu de Jenson Button.
Ouais, non, mais effectivement, c'est vrai qu'il a choisi son poulain, mais on peut pas dire que l'avenir lui a donné tort quand on voit le palmarès de Fernando Alonso. J'ai peut-être une question aussi de notre ami Footix. Qui dit, que pensez-vous des grands prix tels qu'Abu Dhabi qui se développent? Il peut aussi parler de Bahreïn, etc. Ces grands prix un peu bizarroïdes qui arrivent comme ça. Moi, je n'y suis pas, pour donner mon avis, je n'y suis pas totalement favorable. Mais effectivement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a la crise mondiale. Bon, après, on va pas rentrer dans le débat politique qui consistera à dire oui, mais c'est faux, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'effectivement, la FIA a la volonté de se divertir, mais effectivement, peut-être qu'il faut pas mélanger divertissement et business. Et là, j'ai quand même l'impression que le business passe avant le divertissement, même si ça peut paraître sympathique, ces grands prix de nuit, ces grands prix de jour, ces grands prix dans l'obscurité, ces grands prix au Moyen-Orient, ces grands prix dans le désert. Je crois qu'il faudrait quand même pas s'égarer. Et donc, c'est par rapport à ça. Et après, j'aurais une autre question, justement, par rapport à la FOTA et la FIA. Est-ce que tu penses, toi, parce que ça dure quand même depuis quelques mois, voire quelques... Je vais pas dire quelques années, mais ça dure depuis quand même 2-3 ans, le conflit entre la FOTA et la FIA. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas arrêter la guéguerre parce que on a l'impression qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de ronger aussi la Fédération internationale de l'automobile et en conflit permanent avec la FOTA? Et est-ce que peut-être que l'arrivée de Jean Todt va calmer un peu les esprits? Quelles sont tes réactions? Je sais que je t'ai posé pas mal de questions, mais quelles sont tes réactions, tes impressions par rapport à tout ça?
Ben pourquoi pas, mais il faut dire aussi que la FOTA se bat contre un accord qui s'appelle l'accord Concorde. Et l'accord Concorde, c'est un accord fait par, non pas par la FIA, mais par un grand argentier qui s'appelle Bernie Ecclestone. Et comme je dis, le jour que ce gars, que la F1 sera débarrassée de ce gars-là, vous allez voir que, je dirais pas que tout ira mieux, parce qu'on connaîtra pas son successeur, mais tout pourrait aller mieux, oui. Ça peut aller mieux que ce qui va actuellement. Donc pour revenir sur le coup de Bahreïn, Abu Dhabi, là bientôt un en Russie, un autre en Inde, un autre en Corée, moi je ne suis pas favorable parce que on perd justement l'histoire de la F1. Là actuellement nous avons Silverstone qui est Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne tout court qui est menacé. Parce que donc là on voit le caractère de l'homme qui voit que son projet de Donington ne va pas être fait, parce que tout simplement Donington n'a pas répondu aux attentes financières que Bernie Ecclestone a répondu. Et là on se disait bon, on va le faire Silverstone, sauf que Ecclestone têtu qu'il est et a décidé mais parce que comme ça au lieu de remettre à Silverstone là où on remplit si bien, où il y a une si bonne ambiance et un si bon spectacle à Silverstone, je décide plutôt de supprimer le Grand Prix de Grande-Bretagne. Attention à prendre au conditionnel, parce que ce n'est pas encore fait. Mais on se tourne plutôt vers cette direction.
Ouais. Pour recadrer un peu le débat sur le champion du monde, on va essayer de rapidement terminer. Sa rétrospective de sa carrière. Donc en 2003, il rejoint Baronda. Et ça se passe plutôt pas trop mal, je sais pas si tu te souviens. Et à ce moment-là, il reste 2 ans, je crois, chez Bar. Et il commet peut-être l'erreur de rejoindre Williams, où là, ça a été le début de ces grosses galères, avec des problèmes, des disqualifications, des problèmes, des conflits internes. Ça l'a vraiment beaucoup perturbé.
Il n'a pas rejoint Williams.
Il signe donc...
Il n'a pas rejoint Williams. Il a toujours été chez Bar Honda, qui est devenu Honda, puis Brown, mais il devait signer chez Williams, c'est qu'il a signé un contrat pour Williams justement pour l'année suivante, mais le problème c'est que le contrat était illégal, donc ça, ce qui fait que c'est parti chez les tribunaux et Honda a gagné.
Je me rends compte que j'ai dit une grosse bêtise, parce que les saisons suivantes il était toujours chez Honda, à moins qu'il ait fait qu'un grand prix, ce qui m'étonne. Et tu as bien fait de me corriger, parce que en 2006 toujours chez Honda, voilà, il remporte sa première victoire en grand prix, mais c'est encore une saison compliquée. En 2007 chez Honda, en fait, on va dire que chez Honda, les 3 dernières saisons, donc 2006, 2007, 2008, ça fait vraiment de plus en plus compliqué, jusqu'à 2008 où là, ils touchent vraiment le fond avec seulement 3 points sur la saison. Et à ce moment-là, évidemment, en plus, au niveau national, c'est le chouchou britannique. Au niveau national, il est dépassé, il est surclassé par Lewis Hamilton. Ça lui a fait mal parce qu'il avait la presse britannique, il avait le soutien d'un peuple, surtout que tu parlais du Grand Prix de Grande-Bretagne. On sait que les Britanniques sont très friands de ce sport-là. Il avait le soutien d'un peuple très très longtemps et depuis un an avant son sac, donc en 2008, il était vraiment contesté. On avait même, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, on avait même invoqué une possible fin de carrière pour lui. Et quelle résurrection cette saison-ci, on en a parlé avec Brown, c'est assez incroyable finalement. Quel destin en tout cas. Et peut-être que par rapport à Jenson Button, j'aurais peut-être une question. Beaucoup se posent justement cette question-là, alors je voulais savoir ton avis. Au final, est-ce que on peut dire que Jenson Button est un grand champion, ou est-ce que c'est un champion qui ne marquera pas tant l'histoire que ça? Je peux comprendre que ma question peut paraître cynique, mais beaucoup de gens se posent la question.
Alors, je vais poser une question à tous ceux qui sont autour de nous, à cette, sur cette table, pour savoir qu'est-ce que pour vous un grand champion ? Je veux la réponse
un champion
de chacun de vous.
Un champion justement qui amènera, moi je pense que c'est un, je ne veux pas contester le titre, mais ça crée la polémique, en tout cas beaucoup le contestent, en tout cas moi je ne fais pas partie de cela, mais effectivement il manque peut-être d'aura par rapport aux autres, il a vécu tellement de mauvaises années, on a l'impression quand même qu'il a dû attendre la meilleure voiture pour réussir. Après tu veux toujours me dire que même le plus grand comme Schumacher a dû attendre aussi la meilleure voiture, etc. Mais peut-être qu'il n'a pas ce charisme ni cette aura là qui lui permet de rassembler, je dirais, d'être trop très populaire. C'est peut-être ce qui lui fait le plus défaut en dehors de son talent incroyable et de ses capacités de pilote. Mais pour le grand public, c'est très important, l'aura et le charisme.
Alors pour moi, la définition d'un grand champion, c'est quelqu'un, c'est un pilote qui remporte plusieurs titres. Pour le moment, Jensen n'est pas encore là. Il a son premier. L'avenir nous dira s'il sera un grand champion. Maintenant, est-ce que Jenson Button a mérité son titre ? Moi, je dis oui. Pourquoi ?
Oui.
Parce qu'il ne faut pas oublier que il a été très régulier en début de saison, mais il a été irrégulier. Mais il ne faut pas oublier que s'il a remporté son titre, il ne faut pas oublier non plus que ses adversaires ont été plus irréguliers que lui.
Il faut noter. Effectivement, et je peux même rajouter qu'il a gagné son titre sur les 8 premiers Grands Prix. Hein. Donc là, il fait le presque le maximum de points, en tout cas un début de saison assez rêvé, assez inespéré. Et c'est là. D'ailleurs, c'est ça qu'on disait la saison passée. La FIA disait on va changer le règlement, on va faire au nombre de victoires. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode complètement ridicule. Ben, personnellement, je trouve complètement ridicule. Et ici, c'est vrai qu'après 8 Grands Prix, il y avait quasiment plus de suspense, quoi. Enfin, je sais pas. Oui. Il y avait Barrichello, mais il y avait quasiment plus de suspense.
C'était encore une idée de Bernie Ecclestone. Faut pas se cacher. Ouais. Je dis ça en connaissance. Sans en vouloir remettre le. Je sais qu'on va me prendre pour quelqu'un qui est un anti Bernie Ecclestone, mais tous les fans et moi le premier savons très bien que c'était une idée que la FIA voulait imposer et que c'était Bernie Ecclestone qui était derrière tout ça. Par exemple, vous voyez bien que le WRC est régi par la FIA et ça n'a pas été mis dans le
rallye. Oui, il n'y a pas de ces problèmes là. Il n'y a pas.
Voilà. Peut-être
après, il y a peut-être aussi un problème une question d'argent. Peut-être que le WRC rassemble moins. Bon, d'abord, il y a deux grosses écuries WRC. Il y a beaucoup d'écuries qui sont un peu là en stand-by, ou je vais dire de manière temporaire. Peut-être que justement, ça revient toujours au problème d'argent et au problème de business qui ronge la FIA, je pense.
Ça dépend pour qui, hein. De toute façon, on a vu aussi une chose que je ne vais pas préciser, c'est la licence pour piloter en 2009. Donc c'était une prime plus multipliée par je ne sais pas combien le nombre de points pour payer la licence. C'était même que à un moment les pilotes avaient fait une grève pour ne pas payer. Bon, finalement ça a été lâché, mais il y a tout ça. Bon. En même temps, plus on avance, plus on en veut aussi. Et c'est ça que je trouve très très dommage dans le sport, surtout en temps de crise.
Ouais, effectivement. Fabien, tu as une réaction par rapport au dossier que nous sommes en train de traiter, je pense.
Ouais, non, c'était plus des questions un peu générales par rapport à ce que j'entendais. C'est clair pour moi, mais après c'est juste des faits, mais voilà, Jenson Button, il a quand même, pour moi, il a bien profité justement des avantages technologiques, avec tout ce qui était lié au double diffuseur, etc. Des avantages qu'avait Brown GP, parce que Brown GP avait clairement un temps d'avance au début du championnat, et après quand on voit sa deuxième partie du championnat un peu plus laborieuse, moi j'ai envie de dire que... Enfin, je sais pas, moi. Pour moi, tous ces trucs de double diffuseur, bon, j'ai un œil un peu extérieur, j'ai pas très bien suivi tout ça, mais j'ai l'impression que ça a faussé le championnat. Il y avait vraiment une volonté, en fait, de relancer l'attractivité de la F1, etc., de brouiller toutes les cartes, toutes les hiérarchies qui existaient avec Ferrari, McLaren, etc. Mais j'ai l'impression que tant mieux, ça a profité à Brown GP et à Jenson Button, mais que finalement, à la régulière, on s'aperçoit que, Button et Brown GP n'étaient pas forcément aussi supérieurs qu'il l'avait montré en début de championnat, en se faisant petit à petit rattraper au niveau de des progrès technologiques. Je sais pas ce que t'en penses, Rakesh.
Chacun son avis. Cela dit, je ne dis pas que je partage pas ton avis, mais on peut se poser des questions. Il y a des questions qu'on ne saura pas la réponse. Malheureusement, je ne pourrai pas te répondre. Mon avis, oui, pourquoi pas aussi. parce que il y a aussi, il y avait sur l'histoire du double diffuseur, il y avait aussi Williams et une troisième équipe aussi qui avait ce double diffuseur, je sais plus, je crois que c'était Toyota, mais je me souviens plus. Mais voilà. Mais c'est vrai que, comme disait notre éditeur Fabien, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc on parlait de l'attractivité pour relancer le championnat. Il est vrai que on avait entendu aussi parler de Renault qui avait mis le double diffuseur et qui avait demandé à la FIA si c'était bon ou pas. Et on lui avait dit non, c'était pas bon, il faut le retirer cette pièce. Donc il y a une, quelque part aussi une petite injustice parce que apparemment Renault avait ce double diffuseur aussi aux essais privés et que apparemment la FIA avait dit non, c'était pas bon et ça allait être interdit. Pour, d'où le petit procès qu'il y a eu au bout de trois courses hein, au sujet de ce double diffuseur.
Oui, peut-être une réaction d'un auditeur de Tom, Fabien, peut-être que ça t'invitera à avoir une réaction par rapport à ce qu'il dit. Alors il dit que selon lui, le plus gros problème du champion, il utilise des guillemets bottom, ce n'est pas l'aura, mais tout simplement le fait qu'il était sacré champion, pardon, grâce à la ruse de Brown. Bien sûr, il faut féliciter Ross Brown pour cela, dit-il. Mais il est quand même un champion au rabais, car finalement, il n'a pas lutté comme d'autres ont lutté. La saison s'est vite résumée à un duel Brown-Red Bull. Fabien, est-ce que tu partages l'avis de notre ami Tom ?
Bah ouais, non mais en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait, que voilà, les avantages technologiques, le fait que justement, Brown, elles aient eu justement ce double diffuseur, et surtout qu'elles l'aient eu très au point. Parce qu'on voyait clairement que dès les premiers essais d'avant-saison, les Brown, elles avaient un avantage assez conséquent par rapport au temps autour. Bah, ça a facilité la tâche de Jenson Button. Après, bon, voilà, c'est toujours un titre de champion du monde. Donc, il faut pas cracher dessus non plus. Mais moi aussi, ce dont j'aimerais revenir, c'est, quand on voit que t'as des pilotes, après, c'est clair que, McLaren, c'est pas forcément le meilleur exemple avec tous les problèmes, qu'ils ont eu, etc. Mais quand tu vois que, des pilotes comme Hamilton, comme Alonso, qui était à Renault, qui sont quand même des pilotes hors pair et qui sont des pilotes reconnus, talentueux, qu'ils aient pas pu se mêler à la lutte pour le titre, je trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça qu'en ce sens, moi, je trouve que c'est assez critiquable. Enfin, je vois pas trop l'intérêt qu'il y a eu à brouiller toutes les cartes avec toutes ces nouvelles règles, etc. En plus, celui qui suit pas vraiment la F1, il comprend plus trop rien. Et voilà, mais moi je pense que, comme tu l'as dit Rakesh, c'est un peu la volonté à chaque fois de Bernie Ecclestone de relancer l'attractivité de la F1, parce que pour moi, je suis pas allé voir les chiffres, mais je pense que la F1 c'est de moins en moins, enfin je pense, au niveau de l'attractivité, je pense que ça a perdu de son attractivité, et c'est je pense aussi pour ça, Ecclestone il essaye de brasser de l'argent, de continuer en fait à faire vivre un peu son business avec justement développant ses grands prix à l'étranger.
Ouais, si vous voulez faire, cher ami auditeur, comme notre ami Tom, si vous voulez intervenir, si vous voulez donner votre avis, vous savez qu'ici tous les avis sont les bienvenus. Nous fera un plaisir de partager votre avis à l'antenne. Pour clore cette partie Formule 1, puis on parlera de NASCAR, une de tes passions. Rakesh, tu as peut-être une conclusion par rapport à ce qui vient d'être dit, Ross Brown, Jenson Button, la légitimité peut-être.
Oui, vivement 2010.
Ça promet une très belle saison. Mais maintenant, je pense qu'on peut parler d'une de tes passions. C'est la course de NASCAR, qui n'est pas seulement une passion à toi, mais une passion de beaucoup d'Américains qui considèrent en tout cas cette course comme la course référence, en tout cas aux États-Unis. Peux-tu nous dire si le phénomène Jimmy Johnson va pouvoir nous faire la passe de 4, parce qu'il a remporté les trois derniers titres de champion du monde. Si j'ai bien suivi l'actualité, je crois que ça se passe plutôt pas mal en ce moment pour lui.
C'est pas un phénomène, c'est un extraterrestre ce gars-là. Même tous les pilotes, quand on entend les conversations radio, ils disent mais d'où il sort, avec les arrêts au stand extraordinaires, avec les stratégies ahurissantes. Ils se retrouvent toujours devant, c'est-à-dire que des fois il fait des courses anonymes et à la fin de course on le voit, il revient un peu petit à petit, on le voit pas mais il est là, il est toujours là, mais pas forcément pour gagner, mais marquer des points tout le temps et être tout le temps régulier. C'est ce gars-là, il est extraordinaire. Oui. Allô.
Eh bien pardon, j'ai dû rapidement m'absenter. Peut-être une réaction, Fabien. Est-ce que tu connais un petit peu le NASCAR? On sait que C'est une passion qu'ont beaucoup d'Américains. Est-ce que tu as déjà vu cette course-là? Est-ce que ça te passionne, toi? Je sais pas pourquoi je demande ton avis, mais pourquoi pas?
Bah en fait déjà, je ne suis pas américain, donc je suis français. Moi j'ai le truc, c'est qu'en plus j'ai accès à Motors TV. Je crois que ça c'est là sur cette chaîne qu'on peut voir peut-être du NASCAR, mais je t'avouerai que non, je suis pas du tout un passionné. Enfin non pas que j'aime pas, mais j'ai jamais pris le temps de regarder le NASCAR. Voilà.
Ah ben voilà qui devait être dit. Si vous êtes des passionnés de NASCAR, n'hésitez pas à donner votre avis, et puis je pense que chacun peut partager ses passions à l'antenne. C'est pour ça que justement je vous dis, pour les prochaines émissions, si vous aimez un sport qui n'est pas trop médiatisé, si vous aimez si vous avez envie de raconter votre passion pour un sport, eh bien n'hésitez pas pour les prochaines émissions. Raquel, je pense que tu as dit ce qu'il te plaisait de dire sur donc la course de NASCAR. Est-ce que tu as une conclusion peut-être à faire par rapport à la partie automobilisme, je sais pas, une image, qu'est-ce que tu as envie de garder de cette saison d'automobilisme, je sais pas moi, peut-être ou pas.
Alors pour parler, c'est déjà ce soir il y a la course de Talladega à 19h30 sur AB Moteur, et non pas sur Motors TV.
Ben voilà.
On retrouve pas des chaînes, messieurs dames. Donc voilà, en compagnie de nos super commentateurs Philippe Chéreau et Patangeli. Donc vous pouvez même me poser des questions sur le site abmotors.tv si vous avez des questions en direct. Ils vous feront peut-être la joie de vous répondre en direct, s'il vous plaît. Et donc c'est la course à ne pas rater à Talladega ce soir. C'est un super speedway, et un grand ovale où on peut se trouver avec sur cinq de front, et c'est très très impressionnant. Oui. Ah, j'ai cru entendre une petite coupure, pardonnez-moi. Et donc c'est à la course à ne pas rater, je peux même vous dire c'est la course de l'année. Donc si vous ne connaissez pas le NASCAR, vous avez une curiosité, franchement allez-y ce soir 19h30 sur AB Moteur, vous allez découvrir avec surprise et satisfaction, croyez-moi, effet garanti, ouais. Plutôt.
Et puis un petit clin d'œil peut-être pour terminer par rapport à cette partie-là, il y a dans la partie autres sports du forum. Il y a une partie pronostic de Formule 1, et je crois que tu connais le nom du gagnant de cette année, Rakesh. Il s'agit, je pense, de toi, peut-être, non?
Ouais, je crois bien, oui. Bien vu, comment tu le sais?
Je crois, je ne sais. C'est une inspiration divine qui m'est venue soudainement, tout simplement.
D'accord, ok.
Ce genre de choses qui ne s'expliquent pas. Mais pourquoi ne pas lancer une invitation pour la saison prochaine, les pronostics de Formule 1, ça peut être très sympa, ça peut être amusant. Donnons-nous rendez-vous sur la saison 2010, sur la partie pronostics de Formule 1, entre autres, bien entendu. Donnons-nous aussi rendez-vous sur Génération Soccer pour le football et le sport. Ça, il ne faut évidemment pas l'oublier. Je pense qu'on peut passer à la partie rugby avec une nouvelle journée de championnat qui nous est commentée et résumée par notre ami Julien. Julien, quels sont les enseignements que tu as tirés et que tu tires de cette journée de rugby? Bonjour Julien. Julien n'est pas avec nous. Peut-être qu'on peut passer... je propose qu'on passe à la partie tennis et on parlera de la partie rugby en fin d'émission. On peut passer avec notre ami Fabien à la partie tennis, mais évidemment, si vous aimez le tennis, on peut en parler, vous pouvez évidemment interagir dans l'émission. Fabien, avant toute autre chose, il y a eu un coup de tonnerre cette semaine en tennis, mercredi, André Agassi, les quatre grands chelems différents dans sa carrière, ancien numéro 1 mondial, 8 grands chelems remportés en tout, a avoué avoir consommé de la drogue, tout simplement, et l'ATP, ça c'est un peu pire encore, aurait fermé les yeux sur cela, sur son cas. Parlons d'abord de ce produit, hein. Donc c'est la méthamphétamine. C'est un produit en fait qui augmente la stimulation de la vigilance. C'est d'abord considéré comme une drogue, plus que comme un produit dopant, puisque ses effets durent entre 8 et 24 heures. Donc il y a cette augmentation de la stimulation et de la vigilance. Donc la fatigue diminue, ça c'est incontestable. Il y a une douce sensation d'euphorie aussi, et peut-être plus anecdotique, ça stimule la libido. En tout cas, c'est une drogue qui est prohibée, ça c'est très grave. C'est une drogue qui est prohibée par les instances de sport en général, et surtout par l'ATP. L'ATP qui aurait grillé André Agassi, mais qui aurait fermé les yeux au moment où, il faut bien le dire, André Agassi était dans une petite déprime. Il était à ce moment-là englué dans le classement, je ne sais plus exactement. Il était 141e mondial à ce moment-là. Il avait une rupture avec avec son épouse, donc c'était un petit peu. Il y avait peut-être des circonstances atténuantes, mais franchement, ça laisse perplexe quand même ce cas-là. Et c'est et par hasard, on en parlait la semaine passée. Ce genre de cas montre quand même qu'il y a des choses bizarres qui se passent au niveau du tennis, Fabien. Qu'en penses-tu ?
Ouais, bah je pense que t'as bien fait déjà d'une part de resituer un peu le contexte. Agassi qui était pas dans sa meilleure passe, voire même sa plus mauvaise passe depuis le début de sa carrière, qui était comme tu l'as dit 141e mondial, en plus qui était en instance de divorce avec sa femme, donc il avait peut-être besoin, comme tu l'as dit, de restimuler sa libido. Et donc en fait le truc c'est que apparemment donc il s'est fait piquer et il aurait envoyé donc une lettre à l'ATP ou l'ITF, je me souviens plus, pour lui dire pour leur expliquer qu'en fait bah il aurait bu à ses dépens cette méthamphétamine qui en fait est une drogue récréative mais qui est pas considérée véritablement comme un produit dopant. Et donc bah voilà, l'ATP a fermé les yeux. Moi en fait ce que je pense c'est que mon avis c'est que je trouve ça assez stupide toutes les réactions de joueurs qu'il y a eu qui s'indignaient sur le fait qu'André Agassi ait pris ça, etc., que c'était inacceptable, qu'il aurait mieux fait de vivre avec son secret, parce que faut pas oublier qu'en fait cette nouvelle elle est apparue parce que André Agassi en fait a accepté en fait de la dévoiler dans son autobiographie. Bon, je pense que c'était avant tout pour faire un gros coup de pub pour son livre et pour le faire vendre. Mais moi, je pense que ce qui est véritablement à dénoncer, c'est justement cette attitude de l'ATP qui est véritablement, on a l'impression qu'ils n'ont pas de coronesse. En tout cas, à l'époque, ils ont classé sans suite pour éviter un tremblement de terre. C'est clair que voir Agassi dopé, ça aurait nui à l'image du tennis. Mais voilà, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et je pense qu'on peut lancer un petit débat. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures justement à l'ATP? Un poids où on peut passer sous silence certains cas de dopage pour les meilleurs joueurs, pour les vedettes, et pour les autres, pour les joueurs argentins, etc. Là, on fait des sanctions exemplaires et on essaye de montrer qu'on est à fond justement sur la politique anti-dopage et qu'on ne laisse passer aucun cas. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures, voilà. Et Agassi, il faut pas lui tomber dessus. Je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de moins bien. Il a pris, entre guillemets, qu'une drogue récréative. Il s'est pas véritablement dopé. Ouais, donc voilà, aussi, pas la peine d'en faire tout un pataquès.
Oui, aussi, et notre ami Pedro nous le signale à l'instant, on comptait en parler durant l'émission. D'ailleurs, on salue nos amis guignols, je crois que les guignols sont très nombreux à nous suivre. Et s'ils veulent participer à l'émission et qu'ils pensent faire bien les choses, eh bien, on les invite à participer, leur avis nous intéresse beaucoup à l'antenne. Donc, concernant André Agassi, notre ami Pedro nous le signale à l'instant, il était connu pour son look excentrique en début des années 90, avec ses shorts en jeans, avec ses cheveux un peu bizarres, un peu marron blond comme ça, brun blond. Et dans son livre, il fait aussi un autre scoop. Il portait, figurez-vous, une perruque en finale lors de sa finale en 90 à Roland-Garros. Finale battue où il était battu par Andrés Gómez. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, ne sait-on jamais. Alors j'avais une question un peu folklorique, Fabien. Que penses-tu de son prochain scoop? Ça pourrait être quoi? Parce que là, il y a des scoops tous les jours, quoi.
Non, mais c'est pas des. C'est... En fait, le débat il n'est pas là. Le débat et c'est là que moi je voulais qu'on arrive. C'est est-ce qu'il n'y a pas deux poids deux mesures justement dans la lutte antidopage comme dans tous les sports? C'est-à-dire que dès qu'on s'attaque à des monuments d'un sport, tout de suite on ferme les yeux. Et pour moi justement, c'est la preuve qu'on n'est pas encore prêt véritablement à lutter contre le dopage et contre ce fléau tant qu'il y aura ce genre d'attitude. Parce qu'à mon avis, ça continue. C'est pas parce que Agassi, c'est un exemple, mais pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et donc, pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Et moi, l'attitude à condamner, c'est celle de l'ATP. Point final. Voilà.
Ouais, mais quand tu dis qu'il y a deux poids, deux mesures, tu compares pas, tu compares ça par rapport à quoi, par rapport à les.
Ça par rapport à tous les joueurs argentins, style Mariano Puerta qui prennent très cher, style Guillermo Coria, style Joanina Chochela, style plein d'autres joueurs, tu vois. Mais moi, ce que je compare, c'est à ça. Tu vois, les joueurs argentins, en général, enfin, il y en a pas mal qui se sont fait prendre pour dopage. Par contre, tu vois, quand c'est un Agassi, eh bien là, tu vois, on va fermer les yeux parce que imagine que on aurait révélé ça à l'époque, ça aurait fait des remous énormes. Ça, tu peux pas le nier. Après, je vais pas non plus dire oui, Agassi, c'est bien ce qu'il a fait. C'est pas ce que je dis. Mais pour moi, le plus grave dans l'histoire, c'est que l'ATP ait fermé les yeux. Et je pense que tu peux que n'être d'accord avec moi.
Ouais, non, effectivement, mais je pense qu'on ne connaît pas encore tous les détails, parce que d'abord, son livre n'est pas encore publié, il le sera la semaine prochaine. On ne sait pas encore... bon, l'ATP a un peu botté en touche, mais on sent qu'il y a un embarras, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler de ça plus dans le détail encore quand on connaîtra tous les éléments, mais on avait fait déjà une avant-première de ce sujet-là. Mais je pense qu'on va encore en reparler de cette histoire-là, et on en reparlera encore dans le multisport. L'actualité sportive proprement dit du tennis cette semaine, bah, ça se passait à Lyon. Forcément, puisque nous sommes une radio française, nous parlons des résultats en tournoi français, logique, avec la présence quand même de 7 joueurs français dans les quarts de finale. Mais quand même, la déception, c'est que le seul français qui n'était pas dans les quarts de finale, donc sur les 8 joueurs engagés en quarts de finale, le seul français qui n'y était pas, c'est Ivan Ljubicic, et il a quand même botté la route à beaucoup de joueurs français, et il est arrivé en finale. Où il affrontait tout à l'heure Mickaël Liodra. Je ne sais pas si le match est terminé, mais ça c'est une déception, Fabien, pour les joueurs français.
Bah, le match est terminé, hein, puisque Ljubicic a battu Liodra 7-5-6-3. Liodra qui était wildcard et qui a quand même fait un super tournoi en battant notamment en demi, je crois, J. Simon. Donc voilà, c'était assez rigolo, c'est qu'en off, je te disais dans la semaine, ouais, attends, il y a 7 français et un croate en quart de finale à Lyon. Franchement, ça serait trop la honte si aucun des Français n'arrive à gagner, surtout qu'il y avait encore Tsonga et J. Simon, les têtes de série 1 et 2. Et puis là, bah, on voit que Ljubicic se tape, enfin, bat Mikhail Liodra 7-5-6-3. Mais bon, au-delà de la victoire de Ljubicic sur Liodra et le bon tournoi de Mikhail Liodra, moi, ce que j'aimerais un peu discuter avec toi, c'est de la contre-performance plutôt de Joe Wilfried Tsonga face à Arnaud Clément. Moi, j'ai pas compris comment Tsonga pouvait perdre un match, surtout face au style de jeu d'Arnaud Clément. Pour moi, tu vois, Tsonga, il devait démonter en puissance. Il devait démonter en puissance Arnaud Clément, et j'ai pas compris pourquoi cette défaite. Après, la défaite de J. Simon aussi face à Mikhail Liodra. Bon, ça, c'est peut-être ça peut s'expliquer par le style de jeu de Liodra, hein, qui est ultra offensif. Donc voilà, deux défaites de Simon et de Tsonga qui sont pas véritablement rassurantes. En vue de Paris-Bercy, qui va se disputer, qui va commencer, je crois, dans 2 semaines. Et en vue de la course au Masters, surtout pour Joe Wilfried Tsonga. Donc voilà, finalement, il y a 3 jours, on pouvait se dire, le tennis français est dans une bonne passe. Et aujourd'hui, on peut remettre un peu ça en cause et on peut se soucier pour les futurs tournois, quoi.
Non, mais je peux te dire que c'est une première que dans un tournoi ATP, il y a, sur les 8 joueurs présents en quart de finale, il y a 7 joueurs de la même nationalité, donc ici français, et que le seul joueur qui ne fait pas partie donc du club des 8 gagne le tournoi. Franchement, c'est vrai que ça ne le fait pas trop. Oh, tu l'as souligné, les joueurs français, on peut dire qu'ils se sont un peu marchés dessus.
Ils se sont tués entre eux, mais bon, c'est le jeu aussi.
Oui, c'est ça, pareil, la victoire de Clément contre Tsonga. Franchement, ça laisse perplexe, quoi. Comment est-ce possible qu'il peut battre en vue de son année, en vue de son jeu, en vue de la surface, comment il a pu battre Tsonga? Ça peut aussi laisser un peu suspect tout ça. Et bon, la victoire de Liodra sur Simon, tu l'as dit, elle est peut-être un petit peu moins illogique sur papier. Alors un autre joueur qui confirme qu'il est totalement irrégulier sur surface dure, c'est l'Argentin Juan Monaco. Il était 4e tête de série durant le tournoi. Il était éliminé rapidement, justement, par Mikhail Liodra. Et puis, j'ai souligné aussi la belle performance d'un joueur français. Il va avoir 27 ans, il est sorti des qualifications et il a battu Rajiv Ram au premier tour. Fabien, un mot sur ce joueur peu connu qui avait battu Rajiv Ram au premier tour. Et j'ai oublié son nom, c'est vrai que ça fait pas très... peu importe, on en parlera un peu plus tard dans l'émission parce qu'il a une histoire un peu particulière, celui-là.
C'est David Guez.
Oui, c'est ça, celui-là, voilà. Il a une histoire un peu particulière parce qu'il a commencé le tennis très tard. Il a hésité tous les ans. Il hésitait est-ce qu'il continuait ou pas à jouer au tennis parce qu'il galérait. Il a 27 ans. Il est hors de la 200e place mondiale. Et tu vois que quand même, les joueurs français peuvent encore faire de bons résultats dans les tournois de moindre importance, de moindre envergure.
Pour donner un petit mot sur David Guez. Quand je suis en général un peu les tournois ATP, voire les Challengers, c'est plutôt un joueur de Challenger. Et moi, je me souviens avoir vu un match par équipe dans mon département, l'avoir vu jouer à moins 30 et avoir perdu. Donc je me souviens que ce mec avait pété un plomb. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de très commode sur un terrain, qui a un très très bon caractère. Et puis, il a un parcours atypique. Après, je ne connais pas assez pour... pour te dire, pour t'en parler suffisamment. Tout ce que je sais, c'est que c'est clair que il apparaît dans les tournois ATP depuis maintenant. Enfin, c'est quand même un bail qu'il apparaît dans les tournois ATP, mais plus dans les qualifs. Donc après, parler de lui, sachant que pour moi, bah voilà, c'est un joueur qui a pas un potentiel démesuré. Dire qu'il a battu Rahm et que c'est une bonne performance, bah, c'est vrai que c'était plutôt inattendu. Mais pour moi, il y a pas à en faire tout un pataquès de David Guéze. C'est un Français parmi d'autres, on va dire.
Oui, notre ami Pedro qui a une réaction sur le forum, il a très bien suivi. C'est un très très bon connaisseur du tennis, puisqu'il dit qu'à son avis, Joe Wilfried Tsonga n'en avait rien à foutre du tournoi de Lyon, étant donné qu'il n'avait aucun point à remporter, puisque, Fabien, tu n'es pas censé l'ignorer, il a remporté deux tournois 250 cette année, et que quand au classement ATP, les deux meilleurs résultats en 250 sont pris en compte, et étant donné qu'il avait déjà gagné les deux tournois, il ne pouvait pas forcément faire mieux en vue de la qualification pour les Masters. C'est quand même une défaite un peu surprenante. Alors Arthur 0212 nous dit que les tournois de cette semaine ont bien montré l'irrégularité des meilleurs joueurs français à enchaîner les performances. C'est dommage, ils ont du potentiel, mais arrivent à l'exploiter à fond que lors de quelques matchs et non sur une saison. C'est justement ce qu'on se dit très souvent. Je pense qu'il a encore raison. Moi, je lui donne raison en tout cas. C'est ce qu'on se dit très souvent. On a l'impression que sur une saison, quand on voit par exemple mon fils, quand on voit Simon, quand on voit Tsonga, on a l'impression que sur une saison, ils peuvent vraiment rivaliser de temps en temps avec les meilleurs, mais que sur la régularité d'une saison, ça cale, quoi, ça coince. Pas bien.
Non, mais je suis d'accord avec toi globalement, même si je trouve ces propos un petit peu durs, hein, parce que si ça n'était que sur quelques matchs, il serait pas dans le top 15 ou dans le top 20 plus globalement. Après, sur Joe Wilfried Tsonga, bien sûr que Joe Wilfried Tsonga n'avait rien à gagner puisqu'il avait déjà gagné deux tournois ATP 250 et que ce tournoi justement de Lyon, c'était un tournoi 250. Mais bon, en même temps, quand tu vois le score du match contre Clémence, je crois que ça fait 3-7 très serré. Même s'il n'en a rien à battre, je sais pas. Mais moi, je joue au tennis, j'ai un honneur quand même, et je suis au troisième set contre Clémence, je vais pas faire exprès de perdre. Voilà.
C'est sûr, à moins que quelqu'un ait envie de réagir. Mais par rapport à ce tournoi de Lyon, je crois qu'on en a fait le tour. Donc c'est un peu la déception pour les joueurs français. Je rassure notre ami Guignol, c'est son pseudo. Il peut évidemment donner son avis, mais ce serait mieux qu'il s'attaque au débat de fond plutôt que s'attaquer aux animateurs. Mais s'il s'estime meilleur que nous, moi je l'invite à participer avec nous, parce que moi je trouve que c'est intéressant de prendre les meilleurs éléments dans notre équipe, et justement quelqu'un qui pourrait nous terrasser par son savoir et sa science et sa culture, je trouverais ça très intéressant. Donc il n'hésite surtout pas, nous avons besoin de très bons animateurs, donc il peut s'inscrire quand il veut. Alors cette semaine, il y a aussi le tournoi de Vienne.
Il y a Roméo qui veut réagir. Roméo.
Ah ben Roméo, une réaction, Roméo.
Vous m'entendez ou pas?
Mais bien sûr qu'on t'entend. Bonjour d'abord, Roméo.
Alors, Fabien, je sais pas si t'as vu la finale donc du tournoi de Lyon, Ljubicic-Liodra.
Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais je suis tout oui.
Mais bon, tu t'attends quand même. Tu devines par le profil des deux joueurs le scénario du match.
Ça devait être un match avec des longs échanges de fond de cours, à mon avis.
J'ai regardé surtout essentiellement le premier set, et c'était un jeu de service, je gagne mon jeu de service, vas-y à toi, à moi, chacun son tour. Que des gros serveurs, un duel de gros serveurs, inintéressant totalement. Bon, Liodra qui craque juste avant la fin à 6-5 pour Ljubicic. Dans ce jeu, il fait une double faute, il passe pas un seul premier service. Et bah là, direct, on voit la sanction derrière. Ljubicic a beaucoup mieux fini ce second set, et après il a enchaîné en gagnant 6-3, mais un match assez chiant, hein, si je puis dire. Et Ljubicic, comme vous l'avez dit, qui était le seul étranger en face des 7 Français en quart de finale. Bah, c'était aussi peut-être le joueur le plus en forme actuellement, avec Tsonga qui assez incompréhensiblement perd contre Arnaud Clément, surtout que la surface ne s'y prêtait pas du tout. Voilà. Donc Ljubicic qui gagne pour moi assez logiquement.
Ouais, mais je pense quand même sur la finale, je sais pas si vu que tu l'as vu, je vais quand même te questionner. Je pense que Liodra était quand même clairement émoussé. Enfin, c'est pas une excuse, hein, bien sûr, mais je pense qu'il était quand même un peu diminué physiquement dans cette finale, et que justement ça peut expliquer sa perte de lucidité et son petit coup de mou à 6-5 pour Ljubicic.
Ça peut s'expliquer aussi, oui, c'est vrai. Parce que Lyodra, c'est pas quelqu'un qui est connu pour son mental faible. Donc je pense que ça serait plus cette explication, comme tu as dit, de du physique qui bah qui peine un peu à retrouver. Voilà.
C'est vrai. Mais voilà, peut-être peut-être une réaction, peut-être une mise au point de notre ami Pedro qui nous dit: Fabien, je n'ai pas dit que Tsonga avait envie de perdre, mais je pense qu'il a pris ce tournoi de Lyon avec beaucoup de recul et était très relâché. Il a Valence et Bercy où il peut choper 1500 points pour la course à la Masters Cup, pardon. Donc je pense qu'il l'a pris un peu à la légère. C'est vrai qu'on peut pas donner tort à Pedro. Je pense qu'effectivement, il n'avait peut-être pas la motivation à 100%. Puis s'il savait que de toute façon, au niveau du classement, il ne gagnerait pas de points. Et en plus, si mes souvenirs sont bons, au début de semaine, il disait qu'il était venu pour faire plaisir à l'organisateur. Fabien, je pense que là-dessus, tu peux pas contredire notre ami Pedro.
Pour le chèque aussi.
Non, non, mais tout à fait. Oui, mais aussi, ça, je le contredis pas. Mais c'est surtout le scénario du match qui, pour moi, ne colle pas... ne colle pas totalement à ses explications, parce que bon voilà, enfin je pense que il a dû bien se faire chambrer en perdant sur Arnaud Clément, même par Clément ou par les autres joueurs français. Et je sais pas, quand tu joues au tennis, quand tu joues contre un de tes potes ou un de tes compatriotes, il y a toujours cette petite rivalité franco-française qui fait que t'as pas envie de perdre. Donc même si Tsonga il était pas à fond dedans, etc. En plus, Pedro, tu dis que justement Tsonga était relâché, mais un Tsonga relâché, ça doit encore faire plus mal. Donc clairement, c'est clair que je pense pas qu'il a tout mis de son côté, on va dire au niveau des entraînements, etc., pour être à fond sur ce tournoi de Lyon. Mais ça n'explique pas sa défaite face à Arnaud Clément, qui pour moi est un peu dérangeante et pour moi pourrait peut-être révéler des petits soucis, des petites carences dans son jeu, plus que le simple fait qu'il n'était pas forcément motivé. Mais la suite nous donnera des explications et des réponses. Voilà.
Ouais, je pense qu'on en va clore la partie sur le tournoi de Lyon, parce qu'il y avait aussi deux tournois 250 cette semaine, dont le tournoi autrichien de Vienne, avec la tête de série numéro 1, Marin Cilic, qui a tenu son rang, il faut bien dire, jusqu'en finale en tout cas. Il a sorti Feliciano Lopez et Philippe Kohlschreiber tout au long de ce tournoi pour se hisser en finale. Il a perdu tout à l'heure face à Jürgen Melzer, le chouchou local. Vous voyez donc que Melzer qui a fait un très très bon tournoi, puisqu'il avait battu Herbati, il avait battu Tipsarevic, il avait surtout battu Radek Stepanek en demi-finale, tête de série numéro 2, et il bat donc Marin Cilic, la tête de série numéro 1. Marin Cilic, on en avait parlé la semaine passée, qui confirme malgré cette défaite un peu surprenante face à Jürgen Melzer, mais bon, c'est en Autriche avec le public local, on peut peut-être excuser cela. Oui, c'est que c'est très surprenant. J'aurais pas mis un euro sur Melzer, moi, avant ce match-là, malgré que ça se joue, qu'il jouait à domicile. Mais Cilic, je pense que la saison prochaine, il va se maintenir durablement dans le top 10. C'est mon petit pronostic. Est-ce que tu partages mon avis? Il est en train de prendre une carrure dans son jeu. Il avait déjà la puissance, notamment au niveau du service, notamment au niveau du jeu d'attaque, parce que même les mauvaises langues disent que Cilic, c'est un peu un Gulbis amélioré, c'est-à-dire un joueur qui frappe dans tout, mais qui va n'a peut-être pas la meilleure ni la meilleure jugeote. Mais je pense qu'au niveau du potentiel, il en a un très bon, et je pense qu'il va se maintenir durablement dans le top 10. Est-ce que tu partages mon avis par rapport à Marin Cilic, qui a perdu donc 6-4 et 6-3 en finale du tournoi de Vienne par Jürgen Melzer?
Non, mais clairement, Cilic, il a franchi beaucoup de paliers cette année, et il a le potentiel pour s'installer durablement dans le top 10. Ce qu'on peut voir sur ce tournoi et sur les tournois précédents, c'est que Cilic, il a une marge maintenant, il a vraiment de la marge par rapport aux joueurs du top 40, du top 30, voire du top 20. Le souci, c'est qu'il est encore capable de faire quelques matchs sans. Et ça, c'est vérifiable sur le tournoi de Vienne, c'est également vérifiable sur les matchs, sur les tournois précédents. Il peut passer encore, mais vraiment à travers. Parce que moi, je pense que j'ai pas vu la finale, mais sur Melzer, je pense quand même qu'il est passé à travers. Hein, parce que Melzer, c'est pas forcément un joueur qui est en pleine bourre actuellement. Sinon, je pense qu'on peut quand même revenir sur Gaël Monfils. Hein. Gaël Monfils, qui était clairement venu à Vienne pour essayer de remporter le tournoi, pour essayer de gagner des points, et qui se fait taper par Tipsarevic, certes en 3-7, mais qui se fait taper par Tipsarevic, alors que il était tête de série 3, Gaël, hein, que Tipsarevic n'était pas tête de série, donc contre-performance.
Ouais, surtout qu'il aurait pu prendre des points en vue du tournoi de Londres, donc ça c'est vraiment une contre-performance assez importante par rapport à ça. Bon, le dernier tournoi de cette semaine, c'était en Russie, à Saint-Pétersbourg, pardon. Beaucoup de joueurs russes engagés, il y avait aussi deux joueurs français engagés dans le tournoi, mais aucun des joueurs russes, qui étaient très nombreux au départ, ni aucun des deux joueurs français n'a été finaliste. C'est une finale inédite qui a eu lieu tout à l'heure, et un match complètement fou entre Stavkovski, l'Ukrainien, et Zeballos, l'Argentin. Une victoire donc de Stavkovski, 2-6, 7-6, 7-6. Il a gagné les deux tie-breaks, donc il a gagné le match en deux tie-breaks finalement. Le premier sur le score de 18 et le second sur le score de 9-7. Bah, il confirme qu'il est en bonne forme, Stavkovski. Il est un peu inconnu. Moi, je l'avais vu à Mons, puisque pour ne rien vous cacher, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Mons. Et il y avait un tournoi et je l'avais trouvé très impressionnant. Il confirme en tout cas que sur cette fin de saison, il est assez solide, il est assez costaud. C'est un joueur qui a un jeu un peu, je ne sais pas si vous connaissez Steve Darcy ou un peu à la Richard Gasquet. Donc, un jeu à une main avec un jeu très à plat, mais qui peut très bien casser Steve le rythme Darcy, avec un très bon slice en revers à une main. Et donc, voilà, c'est une bonne surprise que ce joueur ukrainien. Ce qu'on peut parler, on peut noter, malgré j'ai été un peu sévère avec les Russes et les Français, on peut quand même noter le bon parcours de Marat Safin, qui va bientôt prendre sa retraite, comme tout le monde le sait. Il a battu notamment Igor Andreev, son compatriote. Il a battu Richard Gasquet au premier tour. Il a battu aussi Denis Istomin, mais il a été éliminé justement en demi-finale par ce même Stavkovski. Et on peut aussi, côté russe, noter le très bon parcours d'Igor Kunitsin, qui a sorti Pablo Cuevas, la tête de série numéro 7, et qui a sorti Victor Anechkou, la tête de série numéro 2. Il a lui aussi été battu en demi-finale, donc Igor Kunitsin, donc 0 sur 2 hein, pour les joueurs russes engagés en demi-finale. On peut aussi parler de la contre-performance de Jérémy Chardy, il faut bien le dire, battu au troisième tour par Ernest Gulbis, le Letton. Chardy, Fabien, qui est très irrégulier depuis quelques mois, il est 36e mondial, mais le classement masque mal son irrégularité. Hein.
C'est ce que j'allais te dire, hein. Au vu de ses résultats, Chardy, il marque un peu le coup, il marque un coup d'arrêt, je pense qu'il est en période de stagnation, voilà, faut lui laisser le temps, hein, parce que moi, j'étais quand même relativement surpris, déjà, qu'il ait confirmé après son excellent Roland-Garros la saison dernière. Il a réussi à prouver qu'il pouvait s'installer dans le top 50, il est maintenant, comme tu le dis, 36e mondial, mais j'attends de voir sur ce joueur, parce que certes, il a un gros service, certes, il a un bon coup droit, mais il est encore... moi, je l'avais vu jouer contre Tsonga, je crois que c'était à l'US Open. Il s'était fait manger tactiquement dans tous les sens. Donc, je pense que c'est un joueur qui est encore, on va dire, jeune, tactiquement parlant, on va dire. Donc, j'attends de voir. Après, sur ce tournoi-là, c'est marrant parce que tu me parles de Stavkovski, là, qui gagne le tournoi. Moi, je l'ai vu cette année à Roland-Garros. J'étais à Roland-Garros et je l'avais vu contre Djokovic. Bon, il avait perdu sur Djokovic, mais il avait quand même réussi à énerver Djokovic au point que Djokovic avait balancé sa raquette, etc. Il menait 3-0 dans le deuxième set, 0-40 sur le service de Djokovic. Bon, il avait perdu. Mais je pense que Djokovic, Stavkovski, c'est un joueur assez talentueux et qu'on risque de revoir prochainement dans des plus gros tournois.
Oui, mais par rapport à Stavkovski, j'y arriverai décidément, j'ai la cheveu sur la langue aujourd'hui. D'ailleurs, mon ami Guignol, je le salue, profites-en. Mais par rapport à ce joueur ukrainien-là, ce que je veux dire, c'est que justement, moi je l'ai vu, il se trouve que c'est totalement paradoxal et ça prouve que d'un tournoi à l'autre, ça peut changer. Moi, je l'avais vu en Coupe Davis, il jouait avec l'Ukraine contre la Belgique et je l'avais trouvé minable. Je dis, c'est pas possible, il était 151e mondial. Je dis, c'est pas possible de jouer aussi mal sur terre battue. Et la semaine suivante, donc je le vois... mais pas à la télévision, je le vois dans le tournoi de Mons auquel j'assistais en tant que spectateur et je le trouvais excellent. Donc tu vois que d'une semaine à l'autre, vraiment, c'est assez marquant que d'une semaine à l'autre, le niveau peut évoluer. Donc parfois, par moments, c'est un petit peu subjectif. Tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport à mon impression là. Et Rakesh aura quelque chose à dire peut-être sur Marat Safin, petite parenthèse.
Ah, j'ai pas trop... Mais vas-y Rakesh, vas-y.
Oui, pardon, oui, je disais que c'était pas top top là... Le ce que nous livre l'héritage au niveau de sa sœur, c'est pas top top au niveau féminin, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore sur le sujet du tennis féminin. Je me disais que Marat Safin ne laisse pas un super héritage qui est sa sœur, qui je trouve qui est très très irrégulière.
Oui,
ouais. Ça, on y reviendra, je pense, par la suite.
On y reviendra un petit peu. On va d'abord parler, parce que c'était le programme, on l'avait établi comme cela. On va parler de Sébastien Grosjean. Tu m'avais dit pourquoi ne pas parler de Sébastien Grosjean. Eh bien, moi, j'ai été dit, suivons ton raisonnement, parlons de Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean qui vient à l'instant de recevoir une invitation de wildcard avec Safin pour le tournoi de Paris-Bercy qui débute le 8 novembre. La dernière invitation se jouera entre Arnaud Clément et Mickaël Iodra. Ouais, c'est une réaction
par rapport à... Ça va être serré, hein.
Pardon ?
Ça va être tendu hein, de choisir entre Liodra et Clément, qui font tous les deux un gros tournoi.
Oui, effectivement. Alors, la question qu'on se pose, c'est stop ou encore pour le Marseillais, qui fut quand même quatrième joueur mondial en 2002. pour moi, je pense, c'est mon avis, que sa carrière est vraiment derrière lui, en tout cas sa carrière en simple, on s'entend bien. Pour plusieurs raisons. D'abord, il aura 32 ans en mai prochain. Pour revenir, ça me semble quand même assez compliqué, surtout que ces dernières années, je vais l'évoquer dans quelques secondes, surtout que ces dernières années, c'est pas quand même... Il est plutôt dans le déclin, il stagne, c'est même pas une stagnation, il est vraiment sur la pente descendante depuis de nombreuses années, et c'est QFD depuis 2003, il chute au classement chaque fin d'année depuis 2003, il était 10e en 2003, il passe 15e en 2004, il passe 25e en 2005, il passe 28e en 2006, il chute 53e en 2007, et il était 170e en 2008. Faut que je fasse la traduction belgo-française, hein, pour les 170 et les 170. Et... D'abord, une petite question par rapport à Sébastien Grosjean. Aura-t-il la motivation pour faire tous les sacrifices pour faire un retour au top en simple, alors qu'en plus, on voit qu'en double, ça se passe bien, il est finaliste en double avec son pote Arnaud Clément à Lyon. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment revenir au sommet de sa forme en simple? Moi, j'y crois vraiment pas. Moi, je pense que... Voilà, peut-être qu'il y a deux éléments qui parlent pour lui. C'est que c'est un très bon joueur de gazon. Donc là, c'est une saison qui peut vraiment lui réussir s'il réussit de très bons tournois. Il peut gagner pas mal de points sur gazon, parce qu'on sait que sur gazon, il a fait de très bons résultats. Et peut-être que l'autre point positif, c'est qu'on l'a vu face à Nicolas Kiefer, qui est 98e mondial. Il peut ennuyer les joueurs du top 100, mais il s'est un peu fait dessus. C'est dommage, parce que contre Kiefer, il dominait vraiment le match. Il s'est un peu écroulé bêtement par rapport à son adversaire. Et ça c'est vraiment dommage, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Il a peut-être encore le niveau d'un top 100, mais malgré tout, son meilleur niveau est derrière lui, Fabien. Je pense que tu vas nous parler un peu plus en profondeur de Sébastien Grosjean et de ce que tu penses de la suite de sa carrière en simple.
Non, mais déjà, t'as raison dans le sens où son avenir, je pense pas qu'il se situe en simple. Le souci, c'est que son gros problème à l'épaule droite, hein, qui s'est quand même réveillé, qui s'est quand même déclaré à partir de 2003-2004. Il avait eu beaucoup de problèmes à l'épaule. Il a dû jusqu'à se faire opérer. Maintenant, en plus, il a des problèmes de tendons. Donc, je pense que c'est un joueur qui est, on va dire, entre guillemets, mort physiquement. Et le souci, en double, c'est en double. Justement, t'as pas besoin de faire les mêmes efforts. C'est véritablement très différent du simple. Bon, ça, c'est un petit peu logique. Et ça lui permet encore d'exploiter sa très bonne main droite, hein, parce que c'est quand même un joueur qui a une main exceptionnelle. T'as un coup droit, je sais pas si pour ceux qui ont suivi sa carrière, mais au début des années 2000, son coup droit, c'était le meilleur coup droit du monde. Pas forcément techniquement, mais il était capable de nous mettre des gouaches dans tous les sens, c'était assez énorme. Donc pour te répondre, forcément, je pense pas, sa carrière en simple est derrière lui. En double, je pense qu'il a encore des bonnes choses à faire, parce que comme tu l'as dit, c'est un excellent joueur de gazon. Et donc c'est également un excellent volleyeur. Donc en double il a encore des bores, mais je pense que lui il aurait bien aimé retrouver ses sensations d'antan en simple. Je pense que son physique ne lui permet pas et ne lui permettra plus d'exprimer au mieux tout son talent. C'est bien dommage. En tout cas moi je pense, comme tu l'as dit, c'était un peu moi qui avait voulu parler de Sébastien Grosjean, parce que je pense qu'il faut lui rendre un petit hommage, je pense, hein, parce que tout le monde se souvient encore de sa demi-finale à Open d'Australie contre Arnaud Clément, qui était énorme, de sa victoire aussi assez énorme devant Bill Clinton, et ça je m'en souviens, qui était dans les tribunes de Roland-Garros, sa victoire contre André Agassi en 2001 en quart de finale, c'était des moments énormes, et sa victoire aussi à Paris-Bercy, je crois que c'était la même année en 2001. Donc ça fait un petit peu le français qui se rappelle ses bons souvenirs. Mais moi, Grosjean, ça a été un joueur que j'ai beaucoup apprécié par le passé. Donc c'est clair que son physique, je pense, lui a montré ses limites. Je voulais lui rendre un petit hommage, voilà.
Voilà qui est fait. Je pense qu'il mérite cet hommage-là. N'oublions pas qu'il fut 4e joueur mondial à son époque et que c'était un très bon joueur français. Mais je pense qu'effectivement, peut plutôt se résumer que ça risque d'être très compliqué, qu'il retrouve son niveau. 4e mondial, on peut faire une croix dessus, ça c'est clair. Mais pourquoi pas revenir dans le top 100 et voir mieux dans le top 50. Mais je crois qu'il devra s'accrocher à ça. Mais on verra ses motivations. On aura la réponse sur le terrain 2010. On peut espérer pour lui, en tout cas. On peut espérer pour lui une très bonne saison 2010. Et notre ami Guignol qui...
Je pense que ça salue, sera difficile. Hein. Qui parce que salue, le problème, c'est d'enchaîner les tournois pour Grosjean, ça devient quasiment impossible. C'est ça le souci. Donc il pourrait peut-être faire quelques petits coups sur des ATP 250, mais je pense que ça n'ira plus maintenant aussi loin. On sait jamais, peut-être que à Marseille, un tournoi qui lui tient à cœur, je crois que c'est en début de saison, pourquoi pas qu'il fasse quelque chose de pas mal. Voilà.
Parlons un petit peu de la WTA très brièvement. puisque les Masters, ou j'ai envie de dire les Masters d'abandon, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était une hécatombe cette année-ci. Bon, on va faire point après point. Bon, je vais essayer de pas trop être sévère, je vous préviens. Yelena Ankovic, elle avait un jeu minable durant les trois matchs, c'était assez incroyable. Une seule victoire, je vais dire, normale, en tout cas, là où son adversaire n'a pas abandonné. Et elle va quand même avec une victoire et presque, j'ai envie de dire, deux défaites. Elle va en demi-finale où elle se fait battre par Venus Williams en 2-7. Inara Safina, je vais pas tirer sur l'ambulance, elle se blesse. Bah, je sais pas, mais à mon avis, elle est ensorcelée. Je ne sais pas ce qui lui arrive depuis qu'elle est numéro 1 mondiale. Franchement, je ne sais pas, c'est contre-performance sur contre-performance. Elle donne une piètre image de la WTA. Je suis pas sûr que ce soit qu'elle rehausse le niveau de la WTA.
Est-ce que c'est à elle de véhiculer cette image?
Non, mais elle le fait inconsciemment, peut-être, Fabien.
De quoi?
Elle le fait inconsciemment, enfin, elle le fait involontairement, en tout cas.
Son métier, c'est quand même de jouer au tennis, c'est pas de porter au mieux le rôle de la WTA. J'ai l'impression qu'on demande à Dinara Safina, justement, de développer le meilleur tennis qui soit, alors qu'on est conscient de ses limites actuelles, et qu'on lui fait porter tous les maux du monde et tous les maux de la WTA. C'est un peu la tête de turc moderne du tennis féminin, j'ai l'impression.
Oui, Rakesh, tu avais quelque chose à dire par rapport à Dinara Safina?
Pas forcément sur Safina, mais est-ce qu'on pense pas que cette année les filles sont trop irrégulières de n'importe où, n'importe quel tournoi? C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde un tournoi, on a l'impression que c'est un loto qui sort pour connaître qui est vainqueur. C'est-à-dire que souvent les favoris tombent à un moment inattendu, et c'est des inattendus qui gagnent le tournoi.
Effectivement. Il y a toujours deux ou trois joueuses qui font exception. Par exemple, on peut pas dire les sœurs Williams dans les grands rendez-vous, elles sont seules et elles répondent tout le temps présentes dans les grands rendez-vous. Et on l'a vu par exemple avec le retour de Kim Clijsters qui les a toutes les deux battues à l'US Open, avec le retour de Justine Henin l'année prochaine, avec peut-être le retour au top de Maria Sharapova. Je pense que ça va donner une bouffée d'air frais au tennis féminin. Enfin des joueuses capables de gagner un tournoi et pas des Dinara Safina, des Jankovic qui sont battues à trois tournois sur quatre, qui ne savent pas conclure face aux petites joueuses. On a besoin de ces joueuses-là. Alors effectivement, on va dire, oui, mais Justine Henin, Kim Clijsters, elles ne perdent peut-être jamais contre des joueuses hors du top 10. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Je me souviens, quelques années, on disait, il n'y a pas beaucoup de suspense au début des... Je sais pas si tu te souviens, Fabien, la critique constante de la WTA. Il n'y a pas de suspense dans les premiers tours de la WTA. À l'US Open, on a vu une hécatombe, l'US Open 2009, cette année-ci. On voit une hécatombe chez les filles, toutes les meilleures classées tombent. Et à ce moment-là, dit, oui, mais c'est pas possible, le niveau n'est pas correct, c'est pas cohérent, etc. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut un juste milieu. Et moi, je pense que pour la WTA, c'est mieux d'avoir des championnes qui gagnent souvent leurs matchs, qui brillent par leur constance, plutôt que des sous-championnes ou des pseudo-championnes qui brillent par leur inconstance et où finalement certains disent oui mais il y a plus de suspense, ça donne un petit côté amusement. Je suis désolé, moi je trouve ça plutôt pathétique, je trouve ça assez ridicule. Je suis peut-être sévère vis-à-vis de la WTA, mais moi quand je vois qu'on a connu les époques comme Davenport, Céleste, mais il y en a qui parlent de Steffi Graf, il y en a qui parlent de Sabatini, mais moi je remonte pas d'Arantxa Sanchez, moi je remonte pas à ça, moi je remonte à il y a même pas quelques années, on avait Mauresmo, on avait Pierce, on avait Davenport, on avait Capriati, on avait Martina Hingis, on avait les sœurs Williams, on avait Sharapova,
Conchita,
c'était des championnes, c'était des joueuses qui brillaient et qui tombaient pas comme ça tous les deux trois tours en grand chelem et qui se faisaient pas, excuse-moi l'expression, qui se faisaient pas dans leur culotte quand elles menaient 5-3 ou 5-0 dans un deuxième set. Et ça, je pense que le tennis féminin a besoin de ça. Et le problème, c'est que depuis que Kim et Justine, et c'est pas du tout par nationalisme, mais c'est un simple constat, on va dire en tout cas depuis que Justine est partie, le tennis féminin se cherche une patronne. Vous allez dire, pourquoi pas Serena? Mais parce que Serena, elle se choisit les moments. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas numéro un mondial? Parce qu'elle ne joue à fond que les grands rendez-vous, les quatre grands chelems, les Masters et les JO une fois tous les quatre ans. Mais ça suffit pas, parce que le niveau, le classement de la WTA demande à être performant sur les 16 meilleurs résultats de l'année. Donc quand Serena Williams gagne les quatre grands chelems ou qu'elle brille sur les quatre grands chelems, il faut aussi à côté avoir cela. Et je pense qu'effectivement ces joueuses qui vont revenir la saison prochaine, telles que Kim Clijsters, Justine Henin, Maria Sharapova, vont vraiment amener quelque chose de supplémentaire par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à Victoria Azarenka, on va parler des autres joueuses qui étaient un exemple encore concret. Victoria Azarenka qui a été pathétique, il faut bien le dire. Elle mène 4-0, elle mène je crois 5-3. Oui. C'est pas possible. dans un Masters qui est censé réunir les 8 meilleures joueuses du monde, c'est pas possible de voir ça. Une fille qui mène, qui domine complètement son adversaire, et on a l'impression de voir ça dans les interclubs, une fille qui se pisse dessus, quoi, et qui s'écroule. Et cette fille-là fait partie des 8 meilleures joueuses de l'année. Ça situe vraiment le niveau. Alors, si on vient me dire que le tennis féminin n'est pas malade, moi, je comprends pas. Alors, Caroline Wozniacki, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est aussi une farce, quoi. C'est une farce. Je sais pas si vous avez vu ce match.
Là, tu m'as l'air un peu difficile sur tennis féminin, mais alors, Wittmeyer, c'est quoi? C'est quoi, Wittmeyer?
Mais pourquoi tu me parles de Wittmeyer? Parce que je partage sa nationalité.
Bon, quel est le rapport? Oui, mais tu diras jamais de Wittmeyer que c'est une fille qui se pisse dessus, qui fait dans sa culotte, et qui mouille à tous les matchs.
Oui, mais Wittmeyer n'a pas le niveau des 8 meilleures joueuses du monde. Je te parle des meilleures joueuses du monde. Évidemment, tu peux me critiquer sur Wittmeyer parce qu'elle est ma compatriote. Je te parle des 8 meilleures joueuses du monde et je te parle des matchs.
Dans les contextes des matchs. Quand tu dis qu'elle mène 4-0 ou 5-3 et tout, et qu'elle se fait remonter, mais faut peut-être situer, faut pas faire du hors contexte, parce que sinon c'est taper, c'est un peu trop facile, je trouve.
Ouais, non, mais
je suis pas là pour défendre la WTA.
Quand on accumule tout ce qui ne va pas, ça ne va pas trop, quoi. Je sais pas si tu as vu
Wozniacki. D'accord avec toi.
Quand elle a ses crampes, et puis le nombre d'abandons, Safina, Wozniacki, Zvonareva qui arrête, Zvonareva qui était remplaçante, qui se blesse et qui est remplacé par une autre remplaçante, Radwanska, qui ne joue plus qu'un match. Mais on est dans la compagnie des Guignols, ou la compagnie créole.
Mais non, justement.
Mais là, on est vraiment. Là, on
mais
est vraiment dans.
Est-ce que t'as pas l'impression aussi que. Est-ce que t'as pas l'impression que, justement aussi, que, justement, le fait qu'elles arrivent totalement épuisées, à la fois physiquement, on le voit par rapport aux abandons, et à la fois psychologiquement, mentalement, par rapport au fait, bah, justement, qu'elles se font remonter de façon assez incompréhensible, et que c'est pas forcément, ça colle pas forcément à leur statut de 8 meilleures joueuses du monde. Est-ce que c'est pas forcément dû au fait que justement pour en arriver là, à l'exception des sœurs Williams, bizarrement qui sont toutes les deux en finale, est-ce que tu penses pas qu'elles ont dû faire tellement de tournois, qu'elles ont dû accumuler toutes les performances, etc., etc., pour être justement dans les 8 meilleures joueuses du monde et qu'elles arrivent complètement rincées à la fin. Et ça, je pense que c'est justement pourquoi elles en sont arrivées là. Parce qu'elles sont obligées de galérer, de faire plein de tournois pour justement gagner des points. Contrairement aux sœurs Williams, qui elles ont une vie à côté, qui font leur business, qui font leur marque de vêtements, etc., et qui justement à la force du poignet, avec justement leur simple talent qui est au-dessus des autres joueuses, bah font quelques tournois, font les grands chelems, et ça leur permet d'être dans les huit meilleures joueuses du monde. Voilà.
Alors je crois que Julien est avec nous. Julien, c'est un passionné comme beaucoup d'amateurs français, un passionné de rugby, et je crois qu'il va nous décortiquer la nouvelle journée de Top 14 qui a eu lieu. Il a tiré quelques enseignements de cette journée. Il va nous le dire maintenant, Julien. C'est à toi. Bonjour Julien d'abord.
11e journée du Top 14 qui commence avec le gros match entre Perpignan et Castres. La grosse affiche entre la surprise de ce début de saison Castres et Perpignan, leader et favori de cette saison, qui recevait donc pour un premier vrai test Castres et qui a été très en difficulté à un moment et qui au final emporte ce match 17-15. Donc une solide victoire pour Perpignan qui montre une fois de plus sa puissance, sa régularité et qui du coup prend la place de leader. Et on a clairement ici toute la fiabilité de l'équipe de Perpignan qui est emmenée toujours par les mêmes joueurs, Mermoz, Marty, Porical, son paquet d'avant avec Girado qui marque un essai. Donc toujours les mêmes arguments et ça marche toujours pour Perpignan qui est leader, qui il n'y a pas grand chose à dire, c'est quasiment parfait du côté de Perpignan. Deuxième gros match, c'était Racing Métro qui recevait le Stade Toulousain. Et là, alors on va reprendre le joli jeu de mots de l'équipe. Toulouse rate son métro. Puisque Toulouse a perdu 27
d'ailleurs, il faudrait qu'ils arrêtent les jeux de mots. Parce qu'avec Lyon nul en gym, la semaine dernière,
voilà. Il y en a fait encore un hier, je crois.
Ils ont oui, Toulouse rate son métro.
Donc là, le Toulouse son métro, puisque Toulouse a perdu 27-20 contre un Racing très solide, avec François Stein, qu'on a vu, notamment la recrue sud-africaine, qui a très bien joué. Et Toulouse a manqué de régularité dans le match. Oui.
Oui.
Oui, oui. Toulouse, c'est le symbole d'habitude de l'efficacité, de quand ils se mettent à jouer, ils sont quasiment inarrêtables. Et là, il y a eu de la fébrilité côté du côté de Toulouse. Et il y a eu vraiment du mal à concrétiser leurs actions. Michak a été pas très bon, voire même mauvais au pied. Et en face, le pack très solide du Racing a fait tenir, a tenu tête au pack toulousain. Et derrière, ça allait vite, c'était fluide. Et une belle victoire pour le Racing Métro, qui prouve bien qu'il mérite sa place en top 14. Il conforte sa place en milieu de classement. Et je pense que le Racing va embêter tout le monde cette saison, parce qu'ils ont vraiment une équipe de qualité qui est en train de se construire, parce qu'il y avait tellement de recrues que le problème, c'est que c'était difficile de trouver un équilibre, et là ça y est, c'est en train de le trouver. Et alors, ensuite match entre Albi et Montpellier, et là on n'est pas loin de Grenoble en Ligue 1 qui fait 11 sur 11. Albi a 10 défaites en 11 matchs. On a, il n'y a plus grand chose à faire du côté d'Albi, je pense. Ils perdent tout, il y a des bagarres générales parce qu'ils sont tellement énervés que, enfin bon, il n'y a plus grand chose à faire là. Côté Albi, c'est quasiment fini pour la saison. Du coup, Montpellier a pris des points, c'est intéressant pour eux, ça éloigne encore plus Albi du sauvetage, du maintien. Donc difficile pour Albi. Hein. Ensuite, alors un match par contre beaucoup plus intéressant qui opposait Bayonne à Toulon. Bayonne qui a décidé de changer la direction puisque Richard Dourte a été viré cette semaine. Et en face, le Toulon qui avait atomisé Bourgoin la semaine dernière et qui avait un test intéressant à Bayonne et qui gagne puisque Toulon s'impose 14 à 8. Match un peu étriqué. Certains diront que Bayonne a eu là, beaucoup de chance. Mais Toulon a eu beaucoup de chance, mais malgré tout c'est une victoire. Et Bayonne a été comme d'habitude s'est emmêlé les mains, a été brouillon, a été pas clair. Et de l'autre côté, Toulon sans Johnny Wilkinson a réussi à gagner grâce notamment à Sébastien Fauquet qui pour une fois a marqué les points. L'année dernière il avait été souvent critiqué, cette année il a été, en tout cas ce coup-ci il a été très efficace. Donc ensuite, Bourgoin-Brive. Alors là aussi très intéressant puisque Brive saigne. Laurent Saigne a été viré de l'entraîneur cette semaine après les très mauvais résultats du début de saison. Patrick Sébastien, le directeur, était parti la semaine d'avant. Donc là, il fallait qu'il se passe quelque chose et bon bah c'est encore pas fameux parce que 14-14 contre Bourgoin. Même si Brive avait pas ses internationaux, notamment anglais. Ricky Flutti qui était blessé, Alex Pofam n'était pas là non plus, donc au final ça fait match nul. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que pour Bourgoin c'est moyen comme d'habitude et pour Brive il y a un exploit d'Estebanès qui est c'était pas loin de perdre une nouvelle fois, donc c'est pas encore ça, et Brive je pense que ça va être long à se soigner. Et là aussi ça a été un match très chaud avec une bagarre au milieu du match, donc Brive c'est pas encore ça, il va falloir petit à petit peut-être se soigner, mais il va falloir travailler beaucoup pour que Brive revienne au top niveau qu'il avait notamment la saison dernière. Avant-dernier match, Clermont Stade Français, chose étonnante, il y a eu deux matchs nuls dans la journée puisque Clermont et Paris ont fait match nul 19-19. C'est un bon match nul pour Paris, mais puisque à la base Clermont était considéré comme favori, mais Clermont a failli perdre puisque c'est Brand James qui marque une pénalité à quelques minutes de la fin, donc Paris peut s'en vouloir. Paris aurait pu gagner face à un Clermont très moyen, et Clermont en même temps lui aussi aurait pu avoir la victoire, donc c'est vrai que c'était, tout le monde était un peu déçu à la fin de ce match. Et Paris est donc bel et bien reparti dans cette saison après ce début difficile. Il y a eu quelques hics, notamment la semaine dernière, mais sinon le Stade Français est vraiment au top en ce moment. C'est redevenu une très très bonne équipe de Stop 14 et clairement on a fait les frais entre guillemets pendant un peu plus de 80 minutes. Et heureusement c'est une nouvelle fois Brandt James qui les sauve. Et enfin dernier match, Montauban Biarritz qui voit la victoire de Montauban. Assez surprenant, mais à Sapiac, une équipe de Montauban comme d'habitude acharnée, qui a mis tout ce qu'ils avaient. Gagne face à un Biarritz moyen qui s'est tout de suite fait agresser, qui s'est retrouvé très largement mené rapidement et au final on a une victoire 14-5. Donc malgré l'essai de Nguenya à une minute de la fin, Biarritz a jamais été en condition de gagner. Biarritz s'est tout de suite fait agresser par l'équipe de Montauban et par le public de Montauban, le public de Sapiac qui est vraiment énorme. Donc voilà, jolie victoire de Montauban. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est Perpignan toujours au top. Toulouse, Clermont moyen. Le Stade Français moyen. L'Aviron Bayonnais en très grosse difficulté. Brive, c'est pas encore ça. Albi, c'est fini.
Ça arrive.
Donc voilà. Par Castres, Clermont et Toulouse. Oui.
Et voilà, et Albi, c'est fini et ça arrive. Voilà. Non mais merci beaucoup pour cette intervention sur le rugby, sur cette nouvelle journée du top 14. Et je crois que t'es un petit peu enrhumé et c'est très bien que tu aies quand même participé malgré ton état de santé quelque peu fragile. Soigne-toi bien en tout cas pour la semaine prochaine. Je suppose qu'il y aura une nouvelle journée à débattre dans le multisport. On va
clore
la partie WTA qu'on n'avait pas clos tout à l'heure parce qu'il y a un autre ami Pedro qui avait laissé un commentaire et qui nous dit Wozniacki joue 6 heures de match en 2 jours. Je comprends que la fille est crevée. En plus, sous ce climat. Mais je pourrais peut-être ajouter quelque chose. Wozniacki est parmi les meilleures joueuses du monde. La fille qui joue le plus de matchs cette saison-ci, elle en joue beaucoup trop. Alors peut-être qu'à un moment donné, elle devrait remettre en cause son calendrier qui est surchargé. Et je pense que Fabien a avait quelque chose à dire pour clore la partie sur la WTA.
Non, mais c'était simplement ce que je disais avant qu'il y ait la petite interruption intempestive. Disait simplement que fallait pas forcément s'étonner de l'état de forme physique et psychologique de certaines des joueuses, de toutes les joueuses sauf les sœurs Williams, tout simplement parce que les autres joueuses, quand vous regardez leur calendrier, elles ont disputé un nombre énorme de tournois, elles ont dû se battre à plusieurs reprises. Il y a un petit écho, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, elles ont dû faire tout un tas d'efforts pour être dans les 8 meilleures joueuses mondiales, que n'ont pas eu à faire du fait de leur talent supérieur à la moyenne, les sœurs Williams. Elles sont arrivées plus frais sur ce tournoi. Elles ont dominé relativement logiquement ce Masters. Donc voilà, c'est tout simplement, je pense que c'est révélateur d'un talent, on va dire, plutôt limité pour ces différentes joueuses, sans vouloir leur cracher dessus. Mais on va dire qu'elles n'ont pas ce petit truc en plus qu'avait, comme tu l'as dit, Justine Henin, cette technique, ce niveau technique au-dessus de la moyenne. Elles ont un jeu plus ou moins stéréotypé, donc elles se tirent la bourre entre elles, elles se fatiguent entre elles, et quand elles arrivent sur Serena Williams ou Venus Williams, elles se font ramasser la petite cuillère, voilà.
Voilà donc pour la partie WTA. Je propose maintenant qu'on passe à la partie cyclisme. On quitte la partie tennis pour parler maintenant du vélo et du cyclisme avec l'information qui est tombée dans la soirée d'hier avec le départ de Cadel Evans qui quitte donc l'équipe de Silence Lotto. Cadel Evans ne portera plus les couleurs de l'équipe Silence Lotto en 2010. L'Australien, sacré champion du monde, on s'en souvient, sur route fin septembre, a choisi de quitter la formation belge. Après 5 années de collaboration, un gros poisson se retrouve sur le marché, avec Contador, ça fait 2 gros poissons. On peut dire 2 choses. On peut dire qu'à cette période-ci de la saison, c'est assez rare quand même, que 2 gros leaders n'est pas encore d'équipe. On peut dire une autre chose, on a l'impression que Cadel Evans et Silence Lotto, le cordon s'est un peu cassé au Tour de France, où Cadel Evans s'est senti à juste titre peu soutenu par son équipe au moment où Jürgen Vandenbroeck prenait l'ascendant sur son coéquipier. Bonjour Aurélien, bonsoir Aurélien, puisqu'il est passé 18h. Je pense que tu peux nous dire ce que tu penses de ce départ à moitié surprenant de Cadel Evans de Silence Lotto.
Eh bien, bonsoir tout le monde. Déjà, c'est bien parce que la saison est finie, mais on s'ennuie pas. Il y a encore des petites infos et puis il y a même des petites courses. Là, je viens de voir qu'il y avait le tour du Burkina Faso qui était fini. Et puis, je vais réagir sur l'info qui est tombée hier soir et sur une autre info qui est tombée dans la journée aujourd'hui. C'est que Evans qui est libre quitte Silence et apparemment irait dans la nouvelle équipe, dans l'équipe BMC de l'ex patron de Phonax, John Lelang, le belge John Lelang, et rejoindrait donc, si l'info se confirme, Balan, Incapi, Burgart et Kroon, ce qui fait une belle équipe. Donc après on peut se demander si c'est un bon choix pour Evans, parce que l'équipe BMC n'est pas du tout assurée de faire par exemple le Tour de France, vu qu'ils n'ont pas une licence Pro Tour et qu'ils sont en Continental. Et sinon, je pense que Evans fait le bon choix en partant de Silence, puisque il y avait vraiment un mauvais climat entre les différents leaders de et le directeur sportif chez Silence, entre Gilbert, Cadel Evans et le directeur de Silence Lotto. Donc il fait le bon choix, et en plus pour Silence Lotto, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, puisque ça va permettre à l'équipe de plus se concentrer derrière Gilbert et Van den Broek, même si on parle, même si le directeur de Silence Lotto a parlé d'un intérêt de la formation pour Contador, mais quand on est une grande formation de cyclistes, comment ne peut-on être intéressé par le meilleur
Exactement, oui. Par rapport à, tu disais, c'est une bonne nouvelle en quelque part pour Silence Lotto, mais peut-être pas spécialement, parce que symboliquement même, à la limite, si on enlève le cas Evan, symboliquement, le maillot quand même de champion du monde, c'est très valorisant pour une équipe cycliste. Donc peut-être que, et peut-être que c'est pour ça qu'Evan s'est parti, parce que justement, il a peut-être senti qu'il y avait un regain d'intérêt dans sa propre formation au moment où il est devenu champion du monde. Donc peut-être que là, ça lui a pas plu. N'oublie pas non plus que Cadel Evans servait souvent aussi la soupe à Philippe Gilbert dans certaines courses, et forcément pour quelqu'un qui se veut être un leader, ça le fait pas trop. Alors bon, évidemment, sur le fait qu'il va rejoindre une formation de Continental, on peut dire par rapport à John Lelang que c'est un de ses meilleurs amis, donc à mon avis il a peut-être choisi la solution de l'amitié en rejoignant John Lelang, puisqu'ils se connaissent très bien, ils sont très bons amis. Après, effectivement, je pense que le fait d'avoir, comme tu l'as dit, une équipe aussi étoffée, ça va peut-être ramener cette équipe dans les grands tours, et pourquoi pas sur le Tour de France, parce que j'imagine mal les organisateurs, même s'ils aiment bien inviter les équipes françaises, je les imagine mal snobber une équipe où il y aurait des noms aussi ronflants que ceux que tu as cités. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais
c'est Fabien, mais peut-être comme ça canet,
par rapport à Cadel Evans, Fabien?
Ouais, non, j'avais juste une petite réaction par Cadel Evans. Quand tu disais que ouais, sur le Tour de France, il était peut-être agacé du fait que Van den Broek lui passait devant, je pense que Cadel Evans, il a fait l'erreur de rester déjà cette saison à Silence Lotto. Déjà sur le Tour de France précédent, et il se retrouvait sans équipe, sans équipier en montagne, et ça lui a porté préjudice. Et cette saison, je pense que c'était tout simplement la saison de trop. Il aurait peut-être dû se trouver une nouvelle équipe. Le souci, c'est clair, c'est que quand on est leader, c'est dur de se trouver une nouvelle équipe. Quand on veut en tout cas être le leader pour le tour, pour les grands tours et notamment le Tour de France, c'est difficile de se trouver une nouvelle équipe, en tout cas qui est disposée à construire l'équipe autour de vous. Donc voilà, je pense qu'il a fait l'erreur de rester une saison de plus, et que pour moi, c'est relativement logique qu'il parte de Silence Lotto. Apparemment, je crois qu'il irait chez BNC, une équipe américaine qui a déjà Balan, Incapi, etc.
Oui, tout à fait. Et puis, je voulais dire, par rapport à Evans, il a déclaré qu'il partait parce qu'il voulait gagner le Tour de France, ce que personne ne le voit faire, gagner le Tour de France. Mais moi, je remets en cause son choix, parce que certes, chaque année, le Tour de France invite deux équipes continentales. Donc, BMC a une forte chance de participer au Tour de France avec Cadel Evans dans ses rangs. Mais quelle ambition pour Evans, car Balan, Incapi, Burgart et Kroon sont plutôt des coureurs de classique, donc pas des coureurs sur un grand tour pour aller épauler. Je connais mal l'équipe BMC qu'ils ont recruté, mais il me semble pas que c'est un recrutement pour gagner le Tour de France. Donc peut-être ça va venir après, mais vu le mercato actuel, je vois pas qui pour Evans, même si depuis on a beaucoup de surprises avec notamment le départ d'Evans, mais je vois pas l'intérêt de signer à BMC pour gagner le Tour de France. Je ne comprends pas. C'est un drôle de choix, ouais.
Non, mais c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le choix de la raison de l'amitié, mais enfin, bon, c'est vrai que ça peut très bien se contester. Alors, je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais il y a du mouvement au niveau des transferts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau du cyclisme? Ça bouge beaucoup en ce moment, Aurélien.
Oui, alors, déjà dans les petits transferts, pas très... connu Vigano qui signe chez Sky Team, donc une recrue de plus très intéressante pour l'équipe britannique. Et puis surtout, même si tout le monde s'y attend, attendait, la signature de Popovic chez Radio Shack, qui rajoute encore plus, qui rajoute encore plus d'éléments pour Armstrong, et qui aura vraiment une équipe très prometteuse pour le Tour de France, et qui, contrairement à Evans, qui choisit une équipe où il y a peu de munitions, en tout cas pour le moment, pour remporter le Tour de France, aura une équipe pour gagner le Tour de France, et qui sera pour l'instant la seule, la meilleure équipe sur le papier pour gagner le Tour de France, avec peut-être la Saxo-Bank un cran derrière, mais pour l'instant, hormis la Saxo-Bank, je vois personne qui pourrait contrer l'équipe de Lance Armstrong, sauf peut-être le talent de Contador à lui tout seul, mais ça c'est un autre débat.
Oui, non mais effectivement, mais le choix de Popovic, lui aussi, puisqu'on on s'inscrit dans la logique du fameux bras droit de Lance Armstrong, il a l'air de se complaire là. Je pense pas non plus que ça puisse être un grand leader et qu'il puisse prendre son indépendance ou prendre une certaine éclosion dans un autre team. Donc il choisit la voie de la sagesse, en s'alignant dans la même équipe que Lance Armstrong. Alors maintenant on peut essayer de parler un petit peu du parcours du Giro. On a oublié d'en parler la semaine passée, on n'avait peut-être pas suffisamment le temps. Un Giro qui sera vraiment taillé pour les grimpeurs. Ça c'est la grande spécificité du prochain Giro. Il débutera par un contre-la-montre. Il y aura 39 ascensions, donc ça va vraiment être un Giro taillé pour les plus grands grimpeurs, pour les meilleurs grimpeurs. Et d'ailleurs, l'objectif des organisateurs du Giro, c'était justement d'essayer d'attirer dans la course italienne, les meilleurs grimpeurs. C'est pour ça qu'ils ont vraiment taillé cette course pour les meilleurs grimpeurs. Alberto Contador, d'ailleurs, il est très séduit par ce tracé. Il dit qu'il compte y participer aussi. Ça va rehausser encore un peu plus le niveau de ce Giro-là. Est-ce que tu crois, toi, que le Giro de la saison 2010 risque d'être encore plus passionnant que celui de la saison 2009? Je sais que tu as apprécié la saison 2009.
Oui, le Giro du centenaire a vraiment été un très bon cru, mais comme tu disais, la grande déception pour le centenaire du Giro, c'est de ne pas avoir eu Contador, contrairement à l'année d'avant. Et donc je pense que cette année, quand on voit le parcours, l'ambition est claire et nette, c'est d'avoir Contador sur le Giro pour qu'on parle du Giro, contrairement à la Vuelta, et pour se remettre en avant par rapport au Tour de France, et surtout pour ne pas être contrarié par le Tour de Californie, qui a beaucoup d'ambition et qui veut devenir une grande course comme la Vuelta ou le Giro ou le Tour de France. Donc en proposant un parcours vraiment très relevé, très intéressant, ils se mettent à l'abri et vont sûrement attirer, en tout cas on va voir, de très bons coureurs pour leur course, et ils espèrent Contador, et on va voir s'il y est, ce sera très intéressant de voir si Contador peut faire un doublé Giro Tour de France. Et puis le Giro mérite d'avoir une grande course comme ça, et c'est vraiment très bien. Et puis je voulais aussi revenir sur ce débat là, en ce moment sur le chat. Oui, FX, j'ai aussi oublié, très important, oui, Gaz. Là, c'est un peu plus, ça donne de la valeur à Astana, qui pourrait donc, avec ce genre d'arrivée, permettre de donner des moyens pour Contador, et donc il pourrait rester chez Astana. Donc ça bouge vraiment sur le mercato. Et puis aussi par rapport aux équipes qui pourraient être invitées sur le Tour de France, Pedro a raison d'insister que Facan Soleil pourrait aussi avoir son invitation, mais je pense aussi à Besson Sojasson, la nouvelle équipe Continental Pro Tour, enfin la nouvelle équipe, mais cette année qui a encore plus d'ambition que l'an dernier, et qui a mis aussi plus de moyens, et qui, avec le recrutement de beaucoup de coureurs français, pourrait aussi avoir son invitation. En tout cas, ça va être très compliqué pour les équipes cette année d'avoir son invitation pour le Tour de France, et donc ça promet un beau début de saison, puisque chaque équipe voudra se mettre en valeur pour avoir son invitation pour le Tour de France. Voilà.
Ouais, voilà. Je peux dire deux choses par rapport à une petite confirmation de dernière minute qui est tombée il y a à peine 33 minutes. Alberto Contador rejoindrait Silence Lotto, mais c'est toujours dans l'état de rumeur. Il y a toujours une certaine incertitude par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un coup de tonnerre, hein, parce que ça, je m'y attendais pas du tout. Donc là, on avait parlé même d'une autre équipe belge qui était Quick-Step, mais alors là, c'est une grosse. Silence Lotto attrape dans son équipe Alberto Contador, ça, ce sera vraiment un gros poisson pour l'équipe, hein. Ça, franchement, c'est une grosse surprise. Et alors, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais l'actualité aussi cette semaine, c'est Stefan Schumacher qui reste suspendu, puisque le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de la suspension de 2 ans de compétition sur le sol français infligée à Stefan Schumacher. L'Allemand avait été contrôlé positif, souvenez-vous, à l'EPO Serra 2 fois lors du Tour de France 2008, on s'en souvient, on en a encore un petit peu mal un petit peu mal au ventre, nous, les amoureux du cyclisme et toutes ces affaires qui ont fait tant de mal à ce si joli sport. Et Stefan Schumacher qui reste suspendu, ça doit te laisser indifférent ou comment
oui,
tu
ça me laisse indifférent. Oui, totalement indifférent, c'est tout à fait mérité qu'il soit encore suspendu. Et sinon, pour ton info sur Silence Lotto, c'est une rumeur encore, comme Carou le dit, c'est pas officiel, il faut attendre encore.
Oui, c'est une rumeur, mais apparemment, deux là. Quotidiens seraient, annonceraient cela demain matin, mais j'attends de voir, deux quotidiens néerlandophones. Donc,
bah, voyons demain, mais pour moi, c'est assez surprenant de voir Contador chez
Silence Lotto. Ah oui, non, mais ce serait une grosse surprise, Fabien, il a quelque chose à dire.
Ce serait une bombe dans le monde du cyclisme.
Ouais, ah vas-y, oui, Fabien. Ça oui. Il n'y a pas d'autre mot.
Ah non, mais c'était justement ce que je voulais vous dire, c'était que moi j'ai vu sur Eurosport qu'apparemment le directeur sportif de Silence Lotto aurait fait des déclarations comme quoi il a dit je vois pas pourquoi il y aurait pas une cinquième équipe qui se placerait sur Contador. Donc pour moi c'est simplement une petite prise de position pour dire bon bah voilà, Silence Lotto il y a plus qu'à d'aller 20, possibilité qu'il y ait Contador, mais moi j'y crois pas une seule seconde.
Moi, je crois que ça va se jouer entre l'équipe de Valverde et l'équipe Quick-Step. Moi, je pense que ça va vraiment être entre l'équipe espagnole et l'équipe belge. Ça va vraiment être entre ces deux-là. Mais après, on verra quoi. Je pense que Rakesh, il a quelque chose à dire sur notre débat.
Oui, sur Schumacher, c'est un petit jeu de mots. Schumacher, il avait Ferrari. Voilà. En référence au docteur, évidemment. Voilà. Bon, ouais, ça fait quelqu'un, c'est pas mal.
Oui, c'est plutôt bien. Alors, je pense qu'on a une petite réaction. Les deux équipes seront Astana, si Contador reste, et Vacances Soleil, équipe hollandaise, départ aux Pays-Bas. J'ai pas très très bien compris, mais je pense que Aurélien peut-être va plus m'aiguiller par rapport à ce sujet.
Oui, ben non, mais c'est comme Sansai dit que ça, parce que comme le Tour de France part de Rotterdam, il y aura forcément une équipe néerlandaise en plus de la Rabobank pour le Tour de France, donc ça sera sûrement Vacances Soleil, ah oui, et en plus ils ont pris les frères Feuillus. Mais après, sinon, je suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il y aura encore une place, j'ai pas le nombre d'équipes qui sont au Tour de France, mais Sansai, si vous pouvez me répondre, je pense qu'il y aura encore une place, donc il y aura peut-être encore une chance pour ou Besson Sojasson ou BMC, et en tout cas, ça va être très compliqué, il y aura une vraie lutte, pour les places autour de France et encore plus peut-être que les autres années. Ça va être très très intéressant à suivre en début de saison, de voir qui met en avant pour être autour de France et qui a dédopé ou non. Voilà.
Voilà, peut-être une réaction de Fabien pour clore la partie cyclisme. Non.
Eh bien. Non, pas de grande réaction, si ce n'est que je pense qu'on va assister à un mercato cycliste très très animé. Là, il est déjà. Et ouais, il y avait un petit truc sur Rasmussen aussi. Hein. Rasmussen qui a annoncé quand même qu'il aurait une équipe la saison prochaine.
Ouais, Rasmussen, je crois pas que c'est quelque chose encore qui va nous rendre fous de joie, parce que effectivement, enfin moi personnellement, Rasmussen, je suis vraiment très très fâché, très en colère sur ce qu'il a fait. Il a tenté de ridiculiser à sa manière le Tour de France. Je crois pas que c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui porte vraiment de l'attention. Après, ils ont toujours droit à une seconde chance et on pourra lui laisser le bénéfice du doute. Mais malheureusement, ce genre de coureur là attire toujours un peu la suspicion autour d'eux, et quelque part je pense que éternellement ce sera jamais oublié. À chaque fois qu'il sera en course, on aura toujours ce petit soupçon, ce petit doute qui gâchera notre plaisir. Je sais pas si Aurélien tu partages mon avis, mais il y a toujours ce petit goût amer quand je vois Vinokourov que j'aimais tellement par le passé, quand il gagne les contre-la-montre, il y a toujours je vais pas dire cette petite gêne, mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas être totalement euphorique par rapport à ces victoires de ces champions qui ont tant triché par le passé, Aurélien.
Non, mais là je suis totalement d'accord avec toi, surtout que moi j'ai, je veux dire, le cyclisme je l'ai découvert avec la fin des années 90, enfin 90, et je veux dire tout, pour moi la plupart des coureurs qui m'ont marqué, c'était après ils sont tous tombés pour dopage et ça a vraiment été chaque fois la grande déception, et ça continue encore. Tu vois, tu citais Vinokourov, moi j'étais fan de Vinokourov, et quand j'ai appris qu'il était dopé, ça a été la consternation, et j'ai failli arrêter de suivre le cyclisme. Et enfin, maintenant, je sais pas, ça continue. Maintenant, j'espère que c'est fini, mais je pense qu'il y a encore des cas comme ça. Après, voilà, c'est vraiment dommage. Et puis, je voulais encore réagir par rapport à Sensei, puisqu'il dit qu'il y aura la lutte aussi avec Cofidis et Buybox, mais Frédérico a dit qu'il restait chez Buybox, puisque... Amaury Sport a confirmé à Buybox qu'il serait bien invité sur le Tour de France, et il me semble que pour Cofidis c'est la même chose, donc la présence de Buybox et de Cofidis au Tour de France est assurée, en tout cas à ce que j'ai lu et à ce que a dit Frédérico, c'est sûr. Donc voilà, et Arthur dit qu'il y aura 20 équipes normalement, ceux qui suivent le Pro Tour et ceux qui veulent, donc on verra bien
Non, c'est les organisateurs qui choisissent, ouais. Ça, on est bien d'accord, c'est eux qui choisissent. Et par moment, ils ne font pas toujours les meilleurs choix. Et Fix le Bordelais qui nous dit que Rasmussen signerait pour l'équipe CDC Cavalière. Donc voilà, ça c'était pour la partie cyclisme. À moins que toi tu aies quelques petits pronostics de transfert pour la saison Aurélien, pour la saison 2010. Je crois qu'il y aura plus grand chose. Hein. Je pense que on est déjà dans le dur pour prendre une expression de cyclisme, mais je pense qu'il y aura plus de grands bouleversements pour la saison 2010.
Ça dépend. Si Cadel Evans signe à BMC, ils vont forcément recruter. Je connais pas l'équipe, mais vu l'équipe les recrues
actuelles.
Ouais. Moi et puis si Contador, ça dépend si Contador reste à Astana ou pas. Mais si Contador devait partir d'Astana, et je pense qu'il y aurait des gros bouleversements sur le marché des transferts. Donc ça peut encore bouger. Et donc ça va être encore passionnant. Et il faut que ça dure parce que ça va être dur quand il y aura plus de quand il y aura plus les transferts et qu'il va y avoir une grande période où il y aura plus de courses cyclistes et tout, on va bien s'ennuyer. Alors vivement que les transferts continuent. Et Sunside disent que Sky peut faire un gros coup à Huggins vu leur budget astronomique. Ben on verra bien si la Garmin recrute quelqu'un pour remplacer Huggins et si Huggins a bougé. Huggins qui pourrait être aussi un des derniers qui pourrait animer le mercato pour le cyclisme.
Ouais, effectivement, par rapport à Contador, tu as raison de le dire aussi que, effectivement, dans la situation actuelle, il n'y aurait pas de gros bouleversements, mais s'il signe, par exemple, dans une équipe belge, c'est pas des équipes qui sont très fortes dans les hautes montagnes, donc là, il va y avoir des renforts obligatoires quelque part, parce qu'en plus, il va, je suppose, pas s'engager dans une équipe qui ne lui donne pas les garanties de succès dans les grands tours. En plus, il a été un peu traumatisé par ce qui s'est passé cette année avec Astana, et donc effectivement, on sera curieux de voir ça lors des prochaines semaines. Et maintenant, je pense qu'il est temps de parler du débat qui nous intéresse. Fabien va nous parler d'une loi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça peut paraître anodin, mais Fabien va nous expliquer pourquoi cette loi qui concerne le sport français a créé la polémique au sein même de la majorité française. C'est une loi qui veut supprimer les célèbres droits d'auteur à certains clubs sportifs. Mais je crois que Fabien va nous en dire plus. Il a un petit peu travaillé ce sujet-là et il veut nous expliquer sa vision de ce problème-là et de cette loi qui est vraiment très contestée actuellement. Fabien.
Oui, donc en fait, c'est une loi qui interdit... Non, je déconne. Je voulais sortir une blague un petit peu à tendance raciste, mais je vais pas la sortir. Donc ouais, c'est sur le DIC, donc c'est le droit à l'image collective. Donc en fait, c'était une loi, je crois, qui avait été instaurée, votée en 2004, et qui visait à renforcer l'attractivité du sport français, puisque ça permettait en fait aux différents clubs sportifs d'être exonérés d'impôts, c'est-à-dire de pas avoir à payer de cotisations sociales, tout ce qui est charges sociales à la sécurité sociale, à hauteur de 30% de la rémunération brute des sportifs. Donc je sais pas si tout le monde suit, mais bon, je pense que c'est relativement clair. En gros, ça permettait aux clubs de faire des économies, et donc ça permettait de renforcer l'attractivité du sport français, notamment du football français. Et donc on a durant la semaine l'Assemblée nationale, donc décidé justement de supprimer cette loi. C'est pas encore définitif, parce que si vous connaissez bien le principe, ça doit encore passer devant le Sénat. Et voilà, donc c'est pas encore définitif, mais je pense que ça en prend bonne tournure. Donc voilà, moi, toutes les fédérations françaises, elles se sont indignées contre cette loi votée. Et je pense qu'on ne peut que s'indigner contre cette loi, parce que justement, déjà qu'on est un petit peu désavantagé au niveau fiscal par rapport, je prends l'exemple du foot, par rapport aux autres championnats. Et on crie à chaque fois qu'on est désavantagé. Alors si en plus on se tire une balle du pied en justement en supprimant les quelques avantages financiers qu'on avait, je trouve ça relativement incompréhensible. À titre d'exemple, on a Henri Legarda, donc le président du Mans, qui a dit que justement la suppression du DIC, du droit, je le répète, à l'image collective, ça allait lui entraîner un coût supplémentaire d'1 million d'euros sur une saison. Et donc sinon on a un chiffre global. La suppression du DIC, elle va coûter à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de ceux qui en bénéficiaient avant, elle va coûter 30 millions d'euros par an. Donc c'est quand même assez énorme. Et c'est d'autant plus incompréhensible, c'est que c'est quand même la ministre des Sports, donc Roselyne Bachelot, elle s'est pas portée contre. Elle a soutenu le projet de supprimer le DIC. Donc je trouve ça assez incompréhensible. Surtout qu'elle a dit, elle a surtout tenu à dire que le DIC c'était un échec. puisque bah, selon elle, en gros, bah, l'attractivité du football français, il n'en avait pas forcément profité, en prenant exemple des départs de gros joueurs du championnat de France à l'étranger. Donc voilà, elle a dit que bon, bah voilà, on la supprime et ça fait rien. Moi, je trouve ça totalement incompréhensible. Voilà.
C'est Roselyne Bachelot qui a dit ça ou Ramayad ?
Ah non, 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 mais Ramayad défendait justement, bah, défendait Leudic, hein, alors que Roselyne Bachelot, pour elle, c'était clair, Leudic, bah, c'est Roselyne Bachelot qui a porté ce projet-là, hein, qui a porté le projet, justement, de supprimer Leudic. Donc, des... Parce que pour elle, justement, Leudic n'avait pas contribué, bien justement, à renforcer l'attractivité des clubs français. Mais en gros, tu sais, en gros, pourquoi il supprime Leudic, c'est tout simplement... Bah, pour essayer de minimiser les dépenses, en tout cas pour que l'État gagne encore un petit peu. En fait, ils raclent les fonds de tiroir et ils vont gagner 30 millions d'euros par-ci, 30 millions d'euros par-là. Mais ils ne pensent pas aux acteurs du sport français qui s'indignent tous en masse contre cette loi totalement stupide.
Ouais, voilà. Ça, tu avais raison de le préciser. Je crois que c'était important dans notre émission sportive. On va après faire avec Roméo un point sur l'actualité du football. Mais juste avant, Rakesh, on n'avait pas tout à l'heure parlé, puisqu'on parlait du mercato, des transferts. Je propose qu'on clôture la page Formula très brièvement. On parle des transferts pour la saison 2010. Avec Alonso, on le sait, qui va rejoindre Ferrari. On parle de Raikkonen. Est-ce qu'il va rejoindre la WRC? Est-ce qu'il va rejoindre McLaren? Est-ce qu'il va arrêter sa carrière en Formule 1? C'est sûr qu'il manquerait à la Formule 1. Justement, Rakesh, est-ce que tu as des... Quelles sont, toi, tes impressions par rapport à ce mercato qui s'annonce très, très agité, un des plus agités, surtout aussi par rapport au fait qu'il y aura de nouvelles équipes la saison prochaine en Formule 1, Rakesh?
Ben, écoutez, tout le monde, il y a beaucoup de... c'est le mercato le plus agité de toute l'histoire de la F1, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve à la fin d'une saison et sans que tous les baquets soient occupés. Et habituellement, à cette époque-là, il doit rester 1, 2, voire 3 baquets. Mais là, c'est l'incertitude totale, complète, pour la plupart de toutes les équipes. Et donc là, je vais faire un petit récapitulatif. Tu sais, donc Ferrari, on sait tous que c'est Felipe Massa et Fernando Alonso. Donc, il n'y a pas de secret pour tout le monde. Chez McLaren Mercedes, seul Lewis Hamilton a été confirmé. On ne connaît pas encore son équipier. C'est qui pourrait être Heikki Kovalainen, du souhait de Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen, dont on parle tout le monde. Mais Raikkonen possède des conditions, c'est-à-dire faire du WRC pendant le week-end off de F1, c'est-à-dire quand il n'y a pas de Grand Prix, il voudrait qu'il fasse du rallye. Et, on peut rajouter aussi Nico Rosberg, parce que ça a été mis dit puis écarté, mais quand c'est dit, on le laisse quand même, parce qu'on peut laisser le bénéfice du doute. James Hamilton. C'est ce que souhaitent aussi Lewis Hamilton et Vodafone, le sponsor principal de McLaren. Mais attention, il ne faut pas négliger non plus que si Jenson Button arrive chez McLaren, il va emporter avec lui aussi dans sa valise le numéro 1 qui portera l'année prochaine. Et on peut rajouter aussi la dernière rumeur, Nick Heidfeld, qui a été l'enfant chéri, qui a grandi chez Mercedes et qui n'a jamais eu sa chance. Et pourquoi pas cette année? Chez Brown Grand Prix, on a 3 noms de pilotes, dont Jenson Button pour une prolongation, parce qu'il avait, quand il a voulu faire l'effort de que Brown soit présent dans ce plateau, il a fait l'effort de réduire son salaire considérablement, mais étant donné qu'il a remporté son titre de champion du monde, il a demandé de retrouver son salaire de 8 millions annuels qu'il grattait. Mais épisode à suivre dans les prochaines semaines, parce que seul Mercedes, s'il s'octroie justement à avaler l'équipe Brown, pourrait lui offrir ce salaire. Et pour le moment, rien n'est dit que Brown et Mercedes pourront se faire. Donc, affaire à suivre. Quelque chose à ajouter? Non? Peut-être? Non? Donc, je continue.
Non, mais si, peut-être que oui. Par rapport à ce que tu parlais, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est évidemment les grosses cylindrées Ferrari et McLaren. Bah, par rapport à Ferrari, où il y aura Fernando Alonso et Felipe Massa, on peut se poser la question, est-ce que c'est bon d'avoir deux bons pilotes dans une même écurie? Est-ce que ça va pas être difficile de faire la hiérarchie du numéro 1? Et puis surtout, est-ce qu'il y a risque pas d'avoir une mésentente, puisque les deux n'ont pas l'air de s'apprécier? Les sous-entendus de Felipe Massa ces dernières semaines, c'est pas un produit de la maison Ferrari. Je crois que Luca Di Montemolo n'apprécie pas trop qu'il y ait comme ça une guéguerre, un conflit ouvert, en plus dans les médias, entre les deux pilotes principaux. Donc là, est-ce que ça va pas poser problème, tu crois? Et est-ce que tu crois vraiment aussi, par rapport à McLaren, est-ce que tu crois vraiment que Kovalainen risque de continuer? Moi, je ne crois vraiment pas, vu la façon dont il est traité, dont il est sous-traité actuellement par son écurie. Je crois qu'il va changer d'écurie. Après, effectivement, Raikkonen est favori, mais je pense que, là encore, ça va encore poser un autre problème, qui va être le numéro 1 la saison passée. On a bien vu qu'entre Alonso et entre Hamilton chez McLaren, ça n'allait pas quand il y avait deux bons pilotes. Comment ça va être la saison prochaine avec Hamilton et Raikkonen? Donc j'ai l'impression que chez Ferrari et chez McLaren, ça risque pas d'être la bonne entente entre les deux pilotes. Est-ce que tu partages mon impression?
Oui, tout à fait, je partage à 100%, voire même à 100%. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront à cohabiter ensemble? Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je peux vous dire que je vais me régaler la saison prochaine à revoir, parce qu'on est prêt à revoir un Prost Senna dans les années 80 à chez McLaren, où tous les deux, et c'était cool, et après, en fin de la saison, l'un a eu le courage de balancer l'autre de gravier. Il faut souligner aussi que Alonso a fait le même coup à Lewis Hamilton au Grand Prix de Belgique en 2007, au premier tour, au premier virage, mais heureusement pour Hamilton, c'était plus de gravier, c'était du goudron, comme on voit dans les circuits rénovés aujourd'hui et les nouveaux circuits, heureusement pour Hamilton. Donc on pourrait voir ça. Donc ça a beaucoup de promesses, beaucoup de spectacles, beaucoup de surprises. Pour ce duel, seul l'avenir dira, peut-être qu'ils vont s'entendre, on ne sait jamais. C'est peut-être de sales caractères, deux bad boys, comme on peut dire, mais ça peut s'entendre, on ne sait jamais.
En tout cas, la saison 2010 s'annonce mais passionnante, mais ça c'est l'une des plus passionnantes. Hein. À plus d'un titre, on se demande comment le rééquilibrage des forces entre les écuries comme Ferrari, McLaren, peut-être même Renault, peut-être un peu moins, il faut le dire. Ces écuries qui ont beaucoup de moyens, est-ce qu'ils vont rattraper le gouffre avec les pilotes qui s'en vont, les nouvelles écuries qui reviennent, les règles qui vont changer? Ça s'annonce vraiment passionnant. Espérons juste que ce soit pas le carnage et que ce soit pas encore une Formula New Look la saison prochaine, Rakesh.
Ouais, déjà, parce que il y a un point de règlement qui va changer, à cause pour faire des économies du budget, à cause de la crise, et blablabla, et blablabla, comme tout le monde le sait. Non, mais franchement, allez-y au palisme, mais qu'est-ce que je dis? Trêve de plaisanterie.
Voilà. Il y en a qui font de l'humour, allez-y, et pas nous, mais pour la saison prochaine. Oui. La grande époque, la nostalgie française.
Mais pourquoi pas, on parle aussi d'Alain Prost pour gérer l'écurie Renault pour prendre la place de Fabio Briatore. Mais bon, pour revenir, excuse-moi, j'étais tellement pris dans le délire que je sais même plus qu'est-ce que tu voulais dire, pardonnez-moi. C'était quoi la question?
Non, mais on faisait juste le rapide point des transferts, il n'y avait pas de question particulière.
Alors, rapide point des transferts, alors vite...
Oui, vas-y.
Alors, prendre Grand Prix, alors ça va être... J'ai trois noms, James Van Button, Nico Rosberg ou Rubens Barrichello, mais on peut facilement écarter le troisième nom. Toyota, alors là Toyota, je mets une petite parenthèse, mais on va en parler un petit peu plus tard. Toyota, Eiki Kovalainen, Jarno Trulli, Kazuki Nakajima et Kamui Kobayashi. Alors Nakajima, donc on va voir un peu sur Williams, qui va être éjecté du baquet de Williams, puisque Williams a certainement du Rubens Barrichello et Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, c'était le troisième pilote qui faisait les essais privés, qui a été interdit en début d'année pour Williams, un jeune pilote qui monte, et Nico comme Rosberg et Hulk, pourquoi pas pour sa force, petit mot jeu de mots, voilà. Robert Kubica, c'est chez Renault, donc ça c'est officiel. On parle de Franck Montagny, Timo Glock pour l'accompagner, et Adrien Sutil. Alors Timo Glock a signé un contrat dans une équipe, mais il veut pas le dire. Donc Timo Glock a signé un contrat dans une équipe, mais c'est pas encore dit. Donc voilà. Chez Toro Rosso, donc on n'a pas encore le nom des pilotes, mais c'est certainement les deux pilotes actuellement qu'on a, c'est-à-dire Buemi et Alguersuari. Donc voilà. Force India, ça va être Adrian Sutil, soit Adrian Sutil, c'est rien officiel dans tout ce que je vous donne chez Force India, Adrian Sutil, Paul Di Resta, comme son nom l'indique, n'est pas italien mais écossais. Karun Chandok, qui est indien, qui pourrait être l'indien de l'équipe, puisque Force India, comme son indique, est indien, et aussi rester pour sa confiance d'Eric Vitantonio Liuzzi. Red Bull Racing, c'est aussi, comme Ferrari, l'équipe où on a les deux pilotes qui sont confirmés, Sébastien Vettel et Mark Webber. USF1, on n'a pas les deux pilotes, mais on peut se garder sur Jonathan Summerton, un Américain inexpérimenté qui pourrait débuter, qui pourrait être épaulé par un expérimenté qui est Frank Montagny, Kazuki Nakajima, enfin, qui n'est pas vraiment expérimenté, mais on peut vite écarter Nakajima, voire pourquoi pas Romain Grosjean, mais bon, je vois pas deux débutants, enfin, il y aura un expérimenté sûr, mais les débutants, ça pourrait être soit Romain Grosjean, soit Jonathan Summerton. Compose Meta, un pilote officiel, Bruno Senna, ça c'est une bonne nouvelle, un gros nom, mais maintenant il ne reste plus qu'à Bruno à faire son prénom sur le circuit, avec Pedro de la Rosa, qui est à chercher aussi, peut-être Romain Grosjean, Andy Soucek, Vitaly Petrov, un bulgare ou un pilote de l'Est, excusez-moi si j'ai pas le nom exact, ou Luca Di Grassi, un gars qui a bien fonctionné en GP2 cette année-là, Manor, rien officiel aussi. On a Adam Carroll, l'Irlandais, Anthony Davidson, le Britannique, qui a été pilote d'essai.
Célèbre pilote d'essai.
À la fin, pilote d'essai qui a été chez Aguri Suzuki et qui a été chez Honda.
Aiki
Korhonen. Voilà. Donc Aiki Korhonen, là, on voit bien que Korhonen est très sollicité malgré qu'il va être éjecté de chez McLaren. Il est très sollicité un peu partout, que je sois chez Toyota, Toyota ou SF1 ou n'importe où, ou chez Manor, ou voir aussi Luca Di Grassi ou chez Manor. Lotus, la 13e équipe qui a malheureusement pris sa place on parle de Yann Todi, Nick Hedfeld, Farouz Fozzi, un Turc, si je ne me trompe pas, si je ne juge pas, Takuma Sato, un retour, ou Kazuki Nakajima. Et Sauber, la 14e équipe, qui à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de 14e équipe, ça va être soit du Nick Hedfeld, qui vont conserver Nick Hedfeld, entre parenthèses, Sauber, qui est ex-BMW, Christian Klein, ou voir pourquoi pas la rumeur, mais ça je ne crois pas du tout, Sébastien Bourdais. Maintenant, Sauber, je pense qu'il va se désister, et je pense qu'il faudra retenir le 15 novembre, qu'est-ce qu'il y a le 15 novembre, et là, ce jour-là, Toyota va décider si oui ou non, ils vont décider de rester en F1. Et il y a de fortes chances, à mon avis, que Toyota décidera qu'ils vont se retirer de la F1. Maintenant, Toyota a aussi à avoir dans ses filets Kimi Räikkönen, ils auraient donné carte blanche pour continuer, mais manque de bol, ça n'a pas pu se continuer. Räikkönen a refusé l'offre de contrat, il a même, pour vous dire, snobé le contrat de Toyota. Affaire à suivre pour Toyota, mais à mon avis, ça sent pas très bon pour Toyota, ce qui est très bon pour Sauber, qui va pouvoir aligner ses voitures sur la grille de départ. Voilà pour la page.
Je pense qu'on a bien conclu la partie des transferts de la Formule 1. On a vraiment été dans le détail. Et donc, c'est intéressant de voir tout ça. On aura évidemment les réponses définitives et concrètes au fil des semaines. Et évidemment, je crois que le premier Grand Prix de la saison 2010, je pense que c'est encore en Australie. Ce sera début mars, en tout cas. Il se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses d'ici là. Mais ça risque d'être, en tout cas, une saison 2010 très passionnante. Je crois que Roméo trépigne parce que lui, son plaisir, son sport préféré, c'est le football. Chris, et il a suivi les résultats de la Ligue 1 tout au long de l'après-midi. Roméo.
Chris.
Oui.
Vas-y, gâche.
Chris, excuse-moi. C'est dernière chose. C'est Bahreïn. Hein. Ça commence par Bahreïn l'année prochaine.
Ah oui, changement de programme. J'avais un petit doute, effectivement. Il change tout
le monde. Et ça se finira par le Brésil et non pas par Abu Dhabi.
Ou par Abu Dhabi parce que Abu Dhabi veut avoir le dernier Grand Prix de la saison. Ouais, maintenant, je pense qu'on peut parler.
Ça finira par le Brésil au lieu d'Abu Dhabi cette année. Ça va inverser les deux manches. Cette année, vont inverser pour la saison prochaine.
Ah oui,
les dernières manches. Voilà.
Ouais.
Voilà. Parce que j'avais entendu que le dernier mot.
Abu Dhabi rêve d'avoir à chaque fois le dernier Grand Prix tous les ans de manière fixe.
Pas l'année prochaine.
Oui, mais c'est un rêve que les organisateurs ont. En tout cas, la saison prochaine, je crois que c'est effectivement le Brésil. Je pense que maintenant, on peut parler Roméo Trépigne depuis tout à l'heure. On peut parler du football et brièvement un avant-bouche du débafteur qui aura lieu tout à l'heure ce soir. Ne manquez pas, voilà. Le débafteur à 23h. Roméo sera là, je serai là, on sera nombreux. Roméo va vous faire un avant-goût de ce qui vous attend. Il a suivi les résultats des matchs de la Ligue 1. Roméo, je te laisse la parole.
Voilà, alors ce soir à 23h, débafteur sur tous les matchs européens de ce dimanche. Alors, il y a de la Ligue 1, il y a de l'Espagne, il y a de l'Angleterre, il y a de l'Italie, il y a même de l'Allemagne. Donc, en Ligue 1, il y a une sensation. C'est Rennes qui s'est fait étrier à domicile 3-0 par Valenciennes grâce à Baldé, Ben Rafala et Pujol. Nice a battu Le Mans 1-0 dans l'autre match. En Angleterre, Manchester City a fait 0-0 à Birmingham. En Espagne, Villarreal, deuxième victoire de rang, 5-0 contre Tenerife. L'Inter a gagné à Livourne. L'AS Roma a gagné à domicile contre Bologne. La Lazio a encore un peu de mal et ça va très mal pour la Lazio de Rome cette année, qui fait match nul à Sienne, le dernier, un partout. Et Hoffenheim a battu Fribourg à Fribourg. Voilà pour la petite page des d'aujourd'hui. On va pouvoir développer ça plus en détail ce soir. On va parler de Ligue 1, du match Sochaux-PSG qui se déroule à 21h. On va parler aussi, bah, pourquoi pas, de Rennes là, qui va très mal. Et on va parler de foot. Voilà. Rendez-vous.
On va parler de football, de football. Parce que je vous rappelle que nous sommes sur Génération Soccer. Mais ça fait du bien aussi d'avoir cette heure et demie et ces deux heures de plaisir multisport et que nous avons partagé avec un nouveau aujourd'hui, Rakesh. Alors je vais te demander, je vais être un peu original, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce que tu t'es bien plu dans cette émission? Est-ce que tout a été comme tu le souhaitais pour toi, Rakesh?
Je suis en période d'apprentissage, je peux pas me poser ce genre de questions, monsieur dame, enfin.
Ah, je ne sais pas.
Non, sérieusement, c'est une très bonne émission, un très bon débat. Dommage, j'espère qu'il y a plus pour réagir un petit peu, parce que j'ai l'impression de faire qu'on a un peu fait des petits solos. Il y avait des personnes qui ont réagi au début d'émission et je souhaiterais que il y a un petit peu plus de réactions, mais c'est pas mal.
Tu sais que c'était la deuxième émission de Multisport, l'occasion pour moi de conclure cette émission en remerciant tous les participants justement qui ont participé avec nous. Il y avait Roméo, merci Rome. Il y avait Aurélien, il y avait Dan.
C'était un plaisir pour moi.
Il y avait Dan dans l'ombre, évidemment, indispensable. Il y avait Fabien, il y avait Julien, il y avait Rakesh. Je vous remercie, vous, d'avoir participé à cette émission. Bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous donner des thèmes ou des sports que vous souhaitez invoquer ou vous souhaitez parler avec nous. Vous pouvez toujours rejoindre l'émission pour les prochaines émissions. C'est tous les dimanches à 17h. Voilà, je pense que peut-être quelqu'un a quelque chose à dire. Sinon, nous, on se retrouve tout à l'heure à 23h pour les débafteurs. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Génération Soccer. Merci à tous.
Vive la Belgique.